Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 novembre 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 9 novembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir, vite, vite, ne perdons pas de temps. Il y a un programme particulièrement chargé ce soir. Vous savez que ce soir, c'est le clan de la presse.
Le clan de la presse.
Donc je recevrai Camille Gallic, pas Claude Giraud qui n'est pas avec nous ce soir, mais que vous entendrez très prochainement sur cette antenne, que je salue au passage. Pas non plus Jean-Claude Varane de National. Pardon, je reprends. Camille Gallic, c'est Rivarol. Claude Giraud, c'est Mondévi. Jean-Claude Varane, c'est National Hebdo. Il ne sera pas là non plus parce qu'il est en voyage. Il est parti avec la caisse, probablement. Chut, on va le dire. C'est une plaisanterie, parce que maintenant, attendez, on va faire... Voilà, c'est une plaisanterie. Quand on fait une plaisanterie, il faut le signaler, parce que autrement, le premier degré, ça circule vite par ici. Jean Madiran est là, Emmanuel Ratier est là, et nous avons également Yves-Marie Adeline et probablement Jean-Gilles Maliarakis, pour des raisons que je vous expliquerai le moment venu. Mais avant, je reçois au débeauté Philippe Boiry, qui est doyen de la Faculté libre des sciences de la communication, et Arnaud Aron-Upinski, qui est conférencier et maître de conférence à la susdite faculté, parce que comme les travaux sont commencés, les travaux sont ouverts, comme on dit ailleurs que dans ces lieux ici, il ne faut pas perdre de temps pour parler de cette Faculté libre des sciences et de la communication, des sciences de la communication, pardon. Et c'est la raison pour laquelle je vais demander à Philippe Boiry de nous dire rapidement ce qu'est cette faculté, comment elle fonctionne, où elle se trouve, et, comme dit la télévision, combien ça coûte.
Cette faculté est née dans le sillage d'autres facultés libres, il y en a quatre dans la région parisienne, qui ont pris naissance à la suite des événements de mai 68. La nôtre est la plus jeune, elle a 20 ans cette année, elle entre dans sa 21e année. Elle est consacrée à l'enseignement des relations publiques, d'une part, et d'autre part de la presse. Nous avons une formation au journalisme. Le succès de la formation en relations publiques a été constaté notamment l'an dernier par le fait que, pour 33 diplômés, nous avons eu 242 offres d'emploi et 900 offres de stage. Cette année, nous dépassons les 300 offres d'emploi et les 1000 offres de stage. Pour le journalisme, nous prenons une quantité réduite de candidats parce que nous savons que c'est un marché qui est chargé. Dans tous les sens du terme. Mais nous avons le plaisir, en tous les cas, de les placer tous. Alors, ici, je voudrais surtout parler d'une initiative que nous avons eue en 98 et à laquelle vous avez fait allusion, qui est la fondation d'une chaire d'épistémologie qui a été confiée à M. Upinski, tout à fait spécialisé dans le sujet. Et ce cours, qui est composé de 10 conférences, qui commencera le 20 novembre prochain cette année, est un cours qui a un succès sensible puisque nous avons vu dès la seconde année doubler le nombre des auditeurs. Nous espérons que ça sera encore le cas cette année. L'assistance à ces cours est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme d'auditorat. Et je pense que ce qui en a fait le succès, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens qui ont assisté au premier cours en ont parlé à d'autres. Ceux de l'an dernier avaient donc doublé de quantité, et j'ose espérer que cette année nous serons dans la même perspective.
Vous venez de me donner une idée, d'ailleurs, que je vais suggérer à Jean Ferré, c'est de créer aussi à Radio Courtoisie un diplôme d'auditorat. Pas mal des auditeurs qui prennent leur adhésion à la radio, on leur envoie un diplôme d'auditorat. C'est pas bête, ça, non?
C'est très bien.
Voilà. Alors, ils n'entendront pas tous les soirs Arnaud Arouy-Pinsky, mais il y a quand même quelques conférenciers qui valent la peine. Il y en a au moins une bonne partie qui parle le français. Pas toujours dans cette émission, mais dans d'autres émissions, oui.
Dernière chose, qui ne concerne pas cette chaire d'épistémologie, mais à partir de l'an dernier aussi, nous créons un diplôme de troisième cycle qui est un diplôme d'études supérieures des sciences de la communication politique. Nous faisons ça en collaboration avec l'Université d'État, c'est-à-dire avec Paris 11.
Ah oui. Donc ils vont enfin savoir ce qu'il faut faire pour communiquer.
Nous efforçons de leur donner quelques solides principes dans cette direction.
Je crois que vous arrivez juste à temps.
On parle toujours, vous savez, de ce dont on manque. Pendant la guerre, on parlait beaucoup de nourriture parce qu'on n'avait rien à manger. Je pense que, par exemple, l'Église catholique a commencé à parler de communication à partir du moment où les églises se sont vidées.
Ben oui, c'est comme ça. Parce qu'avant, ils avaient quand même la possibilité de s'exprimer assez facilement. Les gens étaient obligés d'être là. Tandis que maintenant...
C'est un mot mis à toutes les sauces, vous savez. Très souvent, je propose cette réflexion à mes étudiants. Il y a une différence fondamentale entre communication et information. Âme, disent-ils laquelle. Je leur dis, je peux vous communiquer une information, mais je ne peux pas vous informer une communication.
Quoi qu'il y a beaucoup de communications qui mériteraient d'être mieux informées.
C'est sûr.
Alors, Arnaud Arouy-Pinsky, quelle est la ligne directrice de vos 10 conférences?
Eh bien, la ligne directrice.
Il faut que vous parliez bien dans
La ligne directrice, c'est de remplir le vide, donc à la suite du constat de la tête coupée.
Votre livre, vous aurez la tête coupée.
Voilà. Donc, comme disaient les Panthères Noires, donc il faut être du côté. Il ne faut pas être uniquement du côté du problème. Il vaut mieux être du côté de la solution.
Tant qu'à faire.
Et là, j'en profite pour signaler ce qui est quand même une consécration de la méthode, la déclaration de l'Académie française sur le recul des études littéraires du 6 avril 2000, qui est passée quasiment totalement inaperçue. Et donc l'Académie, donc pour l'an 2000, répond à ce qu'avait fait l'Académie des sciences il y a 30 ans maintenant, qui avait déclaré, bien entendu, qu'on était en train de détruire donc les études scientifiques. Et bien l'Académie donc a dénoncé la politique d'amenuisement. Il y a le mot politique, c'est une politique des filières qui est littéraire, qui est sur le point de parvenir à éliminer presque complètement de notre enseignement la connaissance et le goût de la littérature. Et l'Académie précise, on a d'abord, donc il y a bien des étapes, d'abord asphyxier les langues anciennes, et des bases du latin et du grec sont indispensables pour la compréhension du langage scientifique, des structures politiques et juridiques. Donc je passe, je renvoie à ce texte qui est fondamental, c'est-à-dire que ces académiciens eux-mêmes sont obligés de constater qu'il y a une politique de destruction de la connaissance, donc, et des outils de la connaissance. Alors bien entendu, ils ont été plus lents que les scientifiques, ils n'ont pas de méthode, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à analyser la cause et à proposer des remèdes. Donc le but, la ligne directrice de ce cours d'épistémologie de l'information, c'est donc de remplir ce vide à partir de l'élément essentiel de l'information, c'est la boussole qui a fait découvrir l'Amérique, c'est-à-dire que l'épistémologie, c'est une boussole qui permet de faire le tri entre l'information. L'information vraie et l'information fausse, et on ne parle pas tant en termes de vérité que de preuve. Bon. Et donc il y a trois axes, à partir, une fois qu'on a la preuve, évidemment, qu'on peut trier l'information, eh bien on va pouvoir agir, on va pouvoir se diriger. Il y a les axes qui sont évidemment les sciences, la philosophie et la politique. Il y a les trois degrés, c'est-à-dire qu'au départ la méthode est scientifique, mais à partir de cette méthode scientifique qui permet de trier l'information, on va pouvoir construire une connaissance, comprendre comment la connaissance de notre civilisation s'est créée, quelles sont ses étapes, et puis, troisième partie importante, c'est la construction personnelle, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a une méthode, une boussole, eh bien on peut donc se construire personnellement. Donc ça, c'est les axes, et ce qui est très important, évidemment, c'est cette méthode qui d'abord permet de savoir ce que l'on fait, ce que l'on voit et ce que l'on pense. Ça paraît tout simple, mais faut-il encore le dire? Et ensuite, une fois que, ensuite, de vouloir ce que l'on sait, et puis ensuite de pouvoir ce que l'on veut. Donc ça, c'est ces axes, donc de l'analyse qui partent de l'analyse d'information, qui se poursuivent par la construction du discours, et ensuite qui aboutissent au développement personnel, ce qui est si important dans, si vous voulez, la compétition actuelle. Alors il y a les grands problèmes, mais finalement les grands problèmes se résolvent comme les petits. Et le plus important, c'est de poser problème.
Monsieur Boiry, vous voulez
dire... Oui, je voulais dire que ce qui a... Je parle aux auditeurs, moi, de ces cours et ces conférences. Ce qui les saisit de la manière la plus forte et leur impression la plus formelle, c'est que M. Lipinski, d'abord, leur donne les routes de la démythification d'un certain nombre de manipulations. Et entre autres choses, il propose un moyen d'analyse justement de l'information qui permet de voir ce qui se trouve derrière les mots, derrière les textes, et donc d'être beaucoup plus objectif en face des informations télévisées, écrites, publiées, enfin radiophoniques, avec un esprit critique beaucoup plus aiguisé, parce qu'il propose des techniques d'analyse de ces textes. Et ça, c'est, je crois que c'est ce qui séduit extraordinairement son auditoire.
Bah, c'est ce qui a fait l'importance du livre. Vous aurez la parole ou la tête coupée. On le retrouve, ce livre, maintenant, parce qu'il était à peu près introuvable.
Oui, on va le retrouver.
Bon, plutôt une bonne nouvelle. Donc ces cours commencent le 20 novembre.
Le 20 novembre, donc il y a donc un numéro de téléphone. Donc c'est le 01 47 48 15 15. Et donc la faculté des sciences de la communication se trouve 87 bis rue Carnot, donc à Levallois-Perret.
Alors j'ai posé tout à l'heure une question qui est indélicate, mais c'est la question que tout le monde se pose. Alors, autant y répondre tout de suite.
Tout à fait. Alors, oui, répondons tout de suite. Pour le cours d'épistémologie, l'ensemble du cours coûte, l'inscription coûte 1000 francs. Mm-hmm. Et 600 francs pour les étudiants. C'est-à-dire 1000 francs.
C'est-à-dire que les étudiants qui sont déjà inscrits chez vous.
Non, étudiants extérieurs.
Ah, les étudiants extérieurs. Les étudiants extérieurs. C'est-à-dire quelqu'un qui a une carte d'étudiant
peut s'inscrire à ce cours pour 600 francs.
Et un auditeur libre, non étudiant, paye 1000 francs. C'est-à-dire 100 francs.
100 francs par cours.
Qui dure 2 heures. Moi, j'aime bien rapporter tout
parfois
ça.
Parfois 2h30.
Ce qu'on appelle le SFM, c'est-à-dire le salaire de la femme de ménage. Parce que la seule idée qu'on peut s'offrir 2 heures du Pinski pour le salaire d'une femme de ménage, je ne sais pas pourquoi, c'est un véritable bonheur.
Je voudrais une chose, même rajouter une petite chose. Donc, ce qui est très très important, c'est la notion de la preuve. La preuve qu'on trouve en droit, que l'on trouve dans l'activité professionnelle, que l'on trouve dans la vie personnelle. C'est-à-dire que la preuve, c'est ce qu'il y a de plus important. Et simplement, l'image que je donnerais, c'est l'image des sophistes qui s'étaient fixés pour objectif, donc il y a déjà des siècles et des siècles, en Sicile, de rendre la plus forte la cause la plus faible devant les tribunaux. Nous le voyons tous les jours.
Ouais, bien sûr, c'est
donc
devenu...
le but de l'épistémologie, le but de ce cours, c'est de rendre la plus forte la cause, c'est-à-dire la plus juste, devant les tribunaux, le tribunal de l'opinion, le tribunal professionnel ou le tribunal personnel.
Voilà, ben ça donne. Alors ça se passe toutes les semaines.
Toutes les semaines.
À quel jour?
Alors en principe à 18h30 ou 19h, mais nous fournissons le programme détaillé aux personnes qui le souhaitent. Il suffit de s'adresser donc au 87 bis rue Carnot à Levallois-Perret. À la faculté des sciences de la communication en demandant le programme du cours d'épistémologie qui commence le 20 novembre.
Merci beaucoup. Merci. Donc,
merci.
Tous les renseignements ont été donnés. Si on a besoin de rappeler les adresses et les numéros de téléphone, vous avez laissé tout ça, je crois, à l'administration. Je l'ai sous les yeux. Donc on devrait pouvoir renseigner utilement les auditeurs et leur permettre de devenir des auditeurs éclairés. Merci, M. Boiry. Et je compte sur vous, M. Boiry, pour venir prochainement nous parler du livre que vous allez publier sur...
Qui s'appellera « Auteuil sous les bombes ». C'est un livre sur les bombardements des 3 et 15 novembre 1943 par les soins de l'aviation américaine qui, pensant bombarder les usines Renault, a fait 400 morts dans le quartier d'Auteuil avec Chapelle Ardente, Auvel-d'Hive, etc. Et c'est un peu oublié. Le travail que j'ai fait est un travail de recensement complet puisque dans les archives de la préfecture de police, j'ai trouvé maison par maison le nom des victimes, l'état de dégradation des immeubles, etc. Je pense que tout le quartier d'Auteuil et les historiens de la dernière guerre ont un plaisir à le lire.
Il pratiquait déjà la frappe chirurgicale. Merci, M. Boiry. Merci, Arnaud Rompinski.
Merci.
C'était une bien jolie musique.
C'est joli.
Hein, c'est oui, champêtre.
Ce oui, dites-moi donc. Les oies sauvages. Non, c'est pas ça.
Les oies sauvages. N'importe quoi.
Mais si, c'est le... Oh, écoutez, je l'ai sous les yeux. Ma les oies sauvages, c'est la première plage qui s'appelle Chez le Bon Dieu.
Ah,
c'est le chœur Saint-Michel.
Bon.
Ce sont des chants populaires polyphoniques. C'est édité chez Clovis.
Des chants
Chez Clovis.
Et ça populaire polyphonique.
000 812. Voilà.
Allez, c'est bien, c'est bien. Merci, ma fille. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, ma Camille Gallic.
Bonsoir.
Vous êtes bien belle. Oui, je vous trouve en pleine forme.
Ah ben ça doit être le numéro 2500
ah,
qui m'a dopé.
Ça, voilà, dopède. Bonsoir Jean Madiran.
Bonsoir Serge.
Je ne sais pas que vous êtes bien beau, mais enfin, vous êtes en pleine
forme. Quand même. Oui.
Bonsoir Monsieur Ratier.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Adeline.
Bonsoir.
Monsieur Ratier n'est pas beau.
Non, Ratier, c'est pas beau. Ratier, je ne peux pas le voir. Il le sait, ça fait longtemps.
Et Monsieur Adeline, alors
Adeline, il est magnifique. Il est royal. Alors, c'est le clan de la presse. Il nous manque Varane, je l'ai dit, qui est parti, je dis probablement avec la caisse, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais...
Pour l'étranger, il dit.
Oui, pour l'étranger.
Il est en fuite.
Il a envoyé un fax en disant, je pars pour l'étranger. Donc, j'en conclus qu'il a pris la caisse. Parce que, un nationaliste...
Quelle caisse?
Ah ben, la caisse. The one.
Je trouve ses propos oiseux.
Bon, d'accord. Ça, alors, on arrête. Arrêtons d'oiser. Et Claude Giraud n'est pas là non plus, puisque là, un petit problème familial sans gravité, mais enfin, qui lui interdit d'être parmi nous ce soir. Et puis, Malia viendra peut-être nous rejoindre plus tard, si il arrive à terminer le travail qu'il a commencé. Mais de toute façon, il sera là dans la deuxième partie de l'émission. Alors, vous connaissez le principe, je m'adresse aux auditeurs de cette émission. Sont invités les patrons de la presse, amie, ce que j'appelle la presse amie, c'est-à-dire de la presse, je sais pas s'il faut dire la presse de droite, la presse, il faut certainement pas dire la presse d'extrême droite, parce que Jean Madiran prendrait immédiatement la porte. La bonne presse, voilà. Donc, Présent, Rivarol, Faits et Documents. Et le légitimiste, qui est le dernier né, qui est dirigé par Yves-Marie Adeline, et qui est un journal comme son nom. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est Fidélis, c'est dirigé par Yves-Marie Adeline. Le légitimiste, je ne suis que l'éditorialiste.
Bon, d'accord.
La publication que je dirige,
ça viendra,
c'est la revue Fidélis.
Ça viendra,
dès que vous serez arrivé à
éjecter Soyons-Cours.
Je ne suis pas du tout pressé d'éjecter Soyons-Cours, qui est un excellent camarade.
On dit toujours ça avant d'éjecter les gens, parce qu'on commence à...
Moi, je ne voudrais bien n'être qu'éditorialiste.
Ah, que le rêve.
Voilà. Absolument.
Ça, c'est le rêve, et ne plus avoir la responsabilité pénale du journal.
Ah ben moi, j'ai trouvé la solution. C'est ma femme qui prend ça. C'est elle qui va en prison.
Oui, mais ça, c'est du sexisme là. Pur et simple. Moi, je n'ai pas de femme à envoyer au casse-pipe.
Bien, alors, quels sont les sujets qui vous paraissent urgents? Je vais prendre dans l'ordre de gauche à droite. Ça sera un discours soit pour vous, Camille, mais... Donc c'est Jean Madiran qui est à l'extrême gauche.
Oui, puisque je ne suis plus à l'extrême droite. Les sujets, il y a l'élection américaine, bien entendu.
Non, j'ai dit les sujets intéressants.
Ah, mais c'est aussi un sujet intéressant, parce que la manière dont se comporte le modèle même de la religion moderne actuelle, la religion démocratique.
C'est rigolo, non?
Ben, oui, ça, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est triste, c'est variable, ça tout un... Mais je n'en suis pas du tout un spécialiste, mais je pense que c'est quand même très important.
Non, mais si j'ai bien compris, l'élection du président de la superpuissance la plus superpuissante de la Terre va se jouer sur les bulletins de vote de demi-douzaine d'analphabètes de Floride. C'est ça, c'est bien ça.
Oui, mais
rien contre les retraités, mais la Floride, là-bas...
De vote par procuration
de retraités. Je n'attaque pas les retraités, mais je me demande si le retraité américain est le prototype de ce qui peut décider de l'avenir du pays.
Il doit y avoir également des Cubains naturalisés peut-être américains.
Mais vous savez, les élections qui ont accompagné, si je puis dire, la Révolution française ne permettent pas aux républiques françaises de donner des leçons à qui que ce soit. Et la Troisième République a une voix de majorité, là c'était parmi les parlementaires, et les taux d'abstention, d'abstention volontaire ou non, pendant la Révolution française, où c'était les trois quarts du corps électoral qui ne votaient pas, ça a toujours été plus ou moins de cette manière-là. Ouais. Et toute démocratie suppose une oligarchie qui la tient en main.
J'ai cru comprendre que le coût des élections américaines représentait l'équivalent de 60 000 francs actuels par citoyen français. Si c'était les Français qui payaient, il faudrait qu'ils aient sorti 60 000 francs chacun. Oui, c'est hallucinant.
Oui, mais c'est pas les Français qui payent.
Non, j'entends bien. En plus, ce ne sont pas seulement, je crois, c'est pas seulement la présidentielle. Oui, c'est le coût de tous les scrutins qui ont lieu qui avaient lieu hier aux États-Unis, c'est-à-dire le renouvellement partiel du Sénat et de la Chambre des représentants, et tous les référendums. Il y a eu je ne sais combien, des dizaines de référendums d'initiative populaire également dans de multiples États.
Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde croit qu'on élit les gens qui commandent, alors qu'en réalité, il s'agit d'élire des gens qui vont obéir.
Oui, c'est ce que je dis dans...
C'est ce que
les
dans votre
taux, d'ailleurs,
je croyais être
entre le colistier du sénateur Lieberman et le fils du président qui avait ratatiné l'Irak, je dois dire que le choix était vraiment difficile.
Ça date démocratie, on a décidé un crétin.
Il y avait probablement une raison de choisir, si toutefois mon information n'est pas défaillante, car encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'Amérique. C'est le problème de l'avortement.
Oui, on a dit que
Bush va avoir à nommer très prochainement, à changer des membres de la Cour suprême, et que cela peut modifier la position légale de l'Amérique en matière d'avortement. Et à ce sujet, moi, je dirais volontiers que de plus en plus en tout cas, dans ma représentation du monde, je crois que ce que l'on écarte habituellement de la politique comme étant des problèmes de société me paraît être le plus important de la politique. Parce qu'au moment où on en est à détruire la famille, par exemple, dont on dit en politique quelle est la base, avec raison, quelle est la base de la société. Bien, la famille n'a pas la société. Et ce qui détruit la famille, c'est un problème de société, c'est-à-dire qu'il n'intéresse pas les politiques. Avec l'égalité des droits proclamée pour les homosexuels, c'est-à-dire égalité des droits au mariage, à l'adoption des enfants, etc., et autres mesures semblables, on détruit même la base politique, même politico-sociale, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que malgré la distinction qu'on a introduite, je vois un peu ce qu'elle veut dire, politique dit en grec ce que social dit en latin, c'est toujours les questions de la convivialité, de la vie en société, des possibilités de vie en société, de sur quoi on fonde la vie en société. Or, le dernier bastion de qui reste encore un peu d'un ordre naturel, qui reste encore un peu, bien en ruine, très largement en ruine, c'est la famille. C'est le dernier. Après ça, il n'y a plus rien. C'est l'état sauvage, c'est l'état tribal. C'est la barbarie classique, complète. C'est l'état tribal. Encore que l'état tribal sauverait davantage de la famille sous des formes brutales et frustes, l'état tribal sauverait peut-être davantage de l'institution familiale que notre régime va en sauver.
Mais alors, là, on est un peu plus loin que l'état tribal. À l'heure actuelle, en France, on est dans l'état clanique.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis, effectivement, on est même au-dessous de l'état tribal qui conserve certaines, qui a certaines formes déjà de vie familiale.
Remarquez que les sondages qui sont plus ou moins exacts en matière politique, parce qu'il y a une sanction qui est le vote, donc les instituts de sondage ne peuvent pas se permettre trop de raconter n'importe quoi sur les intentions de vote, puisqu'ils savent qu'ils seront confrontés au vote. En revanche, dans les questions de société, là, il est évident qu'il y a des manipulations qui ne répondent pas du tout à l'état de l'opinion que l'on prépare par ces sondages.
Oui.
Manipulé.
Bien sûr. Oui, absolument. C'est très frappant, ça.
Oui, et d'autre part, vous remarquez une chose à propos des sondages américains. Rarement, comme si une censure spontanée avait fonctionné, on nous a indiqué que, bien entendu, quand on disait ils se tiennent, on donnait pour l'un et l'autre, semble-t-il en Amérique, des fourchettes. Et on disait, j'ai entendu dire au moins une fois sur nos médias, parce que bien entendu, il faut tenir compte des 5% d'erreurs, de la marge de 5% d'erreurs que l'on reconnaît habituellement. Quand est-ce qu'on nous dit ça pour les sondages politiques français? Jamais. Et la plupart des sondages, et la plupart des fois, on nous a traduit les sondages américains en chiffres absolus, sans fourchette, et sans aucune allusion à la marge de 5% d'erreurs qui est... Que l'un ou l'autre des correspondants disait, mais ici c'est connu, c'est bien reconnu en Amérique, il y a cette marge d'erreur qui est reconnue.
Yves-Marie Adeline, vous qui êtes un spécialiste de la démocratie, un démocrate pointilleux, sourcilleux même, quelle est votre réflexion, si vous en avez une?
Pour rebondir sur ce que dit Jean Madiran, ça me paraît normal. Dans un système comme le nôtre, les deux pouvoirs spirituels et temporels se sont croisés. C'est-à-dire que ce sont les prêtres qui font la politique et les politiques qui font la religion. Puisque la démocratie a pour charge de remplacer les valeurs transcendantes. Autrement dit, c'est ce qui est le plus important dans un régime comme le nôtre, ce sont précisément les grands débats de société. C'est pourquoi je suis... Bon, je ne demande qu'à croire à ce que l'avortement, enfin la cause contre l'avortement avance aux États-Unis, mais enfin je suis assez dubitatif.
Et je crois que la réflexion que faisait Camille, si j'ai bien compris, c'est très 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 intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a la sanction de la vérification, on voit que les sondages sont justes. On nous dit Bush va gagner par 50,0001% contre 49, etc. Et il semblerait que ça soit en train de se produire. Bon, sous réserve, bien sûr. Mais en revanche, quand on nous dit une chose qui n'est pas vérifiable, c'est par exemple 70% des Français sont contre la peine de mort, alors qu'ils étaient 70% être pour il y a deux ans, ou 80% des Français sont pour l'avortement. En fait, là, le sondage, c'est plus un thermomètre, c'est une piqûre qu'on vous fait,
c'est une impulsion.
Voilà,
c'est une impulsion.
Ça, c'est quand même extrêmement intéressant.
Et d'ailleurs, en général, ça dépend du média qui a commandé le sondage.
Oui, mais ça, c'est les instituts de sondage qui font ça pour. Oui. Non, mais normal, pour gagner du fric.
Oui, mais il y a un truc qui est comme
le média qui a commandé le sondage.
C'est le média qui a commandé le sondage. L'exemple type. Bon. Le seul sondage qui soit jamais paru où il y a eu une majorité de Français qui étaient prêts à accorder le droit de vote aux immigrés est paru dans un obscur petit journal consacré à l'immigration qui paraît à Amiens. Le sondage avait dû porter sur 500 personnes, commandé par un institut, etc. Et après qui a été repris dans toute la presse. Et c'est le seul sondage sur lequel on s'appuie parce que tous les autres ont toujours dit qu'ils étaient contre, et très très largement. Bon, l'exemple type, c'est il y a eu un sondage qui est paru, je crois c'est dans Têtu ou un journal, qui a dit qu'il y avait une majorité de Français en faveur de l'adoption des enfants par les couples homosexuels.
Ce sont
des sondages qui paraissent exclusivement dans des journaux qui sont intéressés à avoir une réponse soit positive, soit négative.
D'une part, c'est invérifiable, c'est absolument invérifiable, et d'autre part... Si je veux dire d'une façon paradoxale, chaque fois qu'on le vérifie, on vérifie le contraire. C'est-à-dire que si vous parlez autour de vous, mais pas seulement aux gens qu'on fréquente par amitié, par sympathie ou par affinité, dans la rue, dans les commerces, dans les chauffeurs, dans les taxis, partout, chaque fois qu'on a l'occasion de faire une allusion, de dire quelque chose, d'exprimer une idée qui va à l'encontre de ça, vous ne pouvez pas, par exemple, parler du Pax dans le populo, sans provoquer une réaction d'hostilité ou un éclat de rire. Moi, j'ai jamais entendu aucun boucher, aucune épicière, aucun boulanger, aucun facteur me dire « Moi, je suis pour le Pax ». Jamais j'ai entendu ça. Je n'entends pour le Pax que des journalistes, des avocats, des médecins, quand ils parlent sur les médias, d'ailleurs. Parce que les médecins, quand on va les voir et que vous leur parlez du Pax, ils vous disent « Mais c'est... » Alors, a fortiori, avec la
notion... Et ne parlons pas des hommes de loi.
Bon, bien sûr. Alors, donc, là, on est vraiment en face d'une manipulation. Et c'est intéressant, à mon avis, ça ouvre sur un autre sujet d'actualité, Enfin, à moins que vous ayez encore des choses à dire sur les élections américaines.
On pourrait simplement conclure en disant que la situation est quand même confuse. et pour sauver la démocratie, moi, je verrais bien la Serbie bombarder Washington.
Ah ben, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être être obligés de le faire, bien sûr, au nom de la démocratie, c'est certain. Parce que...
Enfin, il y a un autre élément, bon, mais c'est juste pour conclure, enfin, si d'autres veulent parler après, ils peuvent.
C'est gentil, merci.
Les médias français ont l'air de découvrir que l'élection va jouer à très peu, qu'à la limite, il pourrait y avoir eu plus d'électeurs pour un candidat, ouais. Et que comme ça se fait avec le système des grands électeurs, en fait, on peut avoir la majorité dans le pays au niveau... d'un point de vue électoral pur, alors qu'avec le système au second degré, il perd. Ça s'est déjà produit aux États-Unis. Plusieurs élections et ça s'est produit.
Et
ça se produit en France, puisque l'exemple, c'était Marseille en 80.
Avec le mode de scrutin, effectivement. Oui, de fer qui a été élu.
Gaudin a eu la majorité en voix.
Oui, c'est de fer.
Mais comme ça se faisait par un scrutin par arrondissement, il a perdu.
Oui, je dirais que c'est le système du suffrage universel rend ça inévitable, parce que quand vous avez 60% d'abstention. Donc, il y a 40% qui se prononcent. Sur ces 40%, celui qui gagne, il a 20% des voix. C'est-à-dire qu'il y a 80% des Français qui n'en veulent pas. Donc, Chirac gouverne à l'heure actuelle contre la majorité du peuple français. Ça, c'est absolument évident. Enfin,
oui, et puis alors, pour la bizarrerie, ce qu'ils appellent la bizarrerie du système américain, qu'ils ont l'air de dire qu'offense, c'est pas juste, n'est-ce pas? Véritablement, quand on pense à la manière dont ont été traités les suffrages du Front National grâce à la loi, au changement de loi électorale, véritablement, on trafique comme on veut.
Jean, vous savez bien que c'est pas pareil.
C'est bien sûr que c'est pas pareil. Nous savons bien que c'est pas pareil.
Il y a un devoir de mémoire qui s'impose.
Alors,
il faut que nous nous souvenions que c'est pas pareil.
Vous n'êtes tout de même pas d'extrême droite, Jean Madiran.
Comment?
Je dois apporter des réponses aux auditeurs qui demandent pourquoi vous n'invitez pas Minute. Alors, je vais répondre très simplement. J'ai demandé à Molitor de venir dans cette émission quand il a repris Minute et qu'il l'a relancé. Et il m'a dit pas pour l'instant. Donc, l'invitation est suspendue. Quand il voudra venir, il viendra. Pourquoi Brignot n'est-il pas là? Parce que c'est une émission qui réunit les directeurs des journaux ou les personnes qu'il délègue. Alors François Brignot, qui est invité quand il veut, il le sait très bien d'ailleurs, n'est pas directeur de journal, et Martin Pelletier n'est plus directeur de journal puisqu'il a mis un terme à son expérience de journal sur le net et qu'il ne désire plus...
Il semble avoir quitté la vie publique, au moins pour un temps, si j'ai bien compris.
Voilà, il a décidé de s'écarter de la vie publique. Donc, voilà les explications. Alors, cet auditeur dit, alors Miguet, pourquoi pas Miguet? Parce que c'est une émission qui est faite pour les journalistes. Si je peux inviter aussi ma concierge, Madame Pinto, qui est charmante, qui est une portugaise catholique absolument charmante, mais c'est une émission de journaliste, vous comprenez? Faut pas tout mélanger non plus, hein? Voilà. Je pourrais inviter aussi Knobelschwitz, il est au moins aussi journaliste que Miguet. Hein? Voilà. De quoi je voulais parler? Oui, je disais qu'effectivement, l'idée d'une manipulation de l'opinion publique conduit à évoquer l'affaire qui secoue la France en ce moment, qui est l'affaire de la vache folle. Alors, je ferai une remarque, d'ailleurs, qui n'est pas de moi, c'est un ami qui me l'a susurré en me demandant de garder le silence sur son identité. Il me dit que déjà, dans l'appellation de cette maladie, il y avait un scandale très grave, puisque c'est vrai, c'est un sexisme épouvantable. On parle de la vache folle en permanence, mais personne ne parle du taureau fou. Or, je suis certain que dans ce qu'on bouffe, il y a autant de taureaux que de vaches.
Peut-être une question.
Pourquoi on parlait de la vache
folle?
C'est parce qu'on accuse les vaches laitières, principalement, et qu'il n'y a pas beaucoup de taureaux laitiers que je sache.
Je ne sais pas. Ça, c'est la même histoire que les œufs de canard. Personnellement, je n'en ai jamais goûté.
Mais enfin, pour l'affaire de la vache folle, je remarque que M. Chirac est intervenu très solennellement hier devant de beaux drapeaux, un drapeau français et un drapeau européen, pour mettre son premier ministre en demeure d'en finir avec les farines animales, et que M. Chirac n'a pas du tout réagi à ce que moi je trouve tout de même en France le fait le plus important de ces derniers jours, c'est le discours de Jospin
devant le CRIFA,
où il a condamné l'armée française pour la torture dans une annexe du seul pays dont la Cour suprême ait reconnu la torture et entériné la torture, ouais. C'est-à-dire
c'est,
Israël.
C'est fabuleux.
Et en c'est plus, absolument... On a... pour moi, c'est vraiment... Et le manque de réaction des médias à cette affaire que je trouve absolument énorme. Et le manque...
Mord rarement son maître.
Oui.
Ça arrive, c'est quand même assez rare.
J'en conviens. Mais enfin, ça montre, en tout cas, il y avait là... il n'y avait jamais eu autant de ministres anciens ou présents au gala du CRIF. J'en donne la liste d'Henri Varol. Il y avait je ne sais combien de ministres RPR.
Vous avez économisé de la place en disant ceux qui n'étaient pas là.
Et socialistes. Et que personne, il y avait Madame Alliomari, il y avait Monsieur de Béchian, Monsieur Tibéri, et que personne ne se soit, n'ait quitté la pièce, d'abord quand le président du CRIF
a insulté la France. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'étais absolument hors de moi.
Et ensuite, quand le Premier ministre a tenu ses propos déshonorants, montre où en est tout de même, si on ne le savait pas encore, la droite qui s'intitule républicaine.
Ce sont des loufias.
Mais quant aux autres, on oublie trop facilement aussi que c'est pas nous. Ce qu'il y a qui n'est pas nouveau, c'est que nous sommes gouvernés par des porteurs de valises du FLN.
Oui.
Alors qu'ils continuent quand ils en ont l'occasion leur combat contre l'armée française.
Certes, mais Chirac a joué sur son image de fanamili aussi, d'officier de blindé pendant la guerre d'Algérie, et Madame Alliomari, qui est la présidente du RPR, ou le président du RPR, n'a pas été une porteuse de valises. Or, ces gens ont avalé l'insulte et ont mis leur mouchoir dessus.
Oui, c'est vrai.
Et j'imagine, revenir...
Ceux qui n'en sont pas des porteurs de valises, ce sont des signataires de l'accord d'Évian.
Il n'y a qu'une chose
qu'on
peut dire.
Alors finalement, vous comprenez, ils se rejoignent soit dans le contentement, soit dans la paralysie, enfin de choses semblables.
Il y a une chose qu'on peut faire remarquer quand même, c'est que naguère, quand ils étaient porteurs de valises, c'était des valises en carton. Maintenant, c'est plutôt des valises Vuitton, mais c'est jamais des valises en pot de porc. Monsieur Ratti, vous avez une réflexion à faire?
Et puis quand même, Chirac, il ne faut pas oublier ce que c'est pour lui qu'un ancien combattant.
C'est un républicain.
C'est
espagnol.
Un républicain, hein? Voilà.
C'est un combattant des brigades internationales de la guerre d'Espagne. Mmh. Alors, voilà. Tout ça, mais... il y a cette réaction-là qui est tout à fait normale. C'est qu'on finit quand même, on garde quand même se dire, mais c'est quand même, bon, celui-là, c'est quand même un chef d'État. Il est chef de l'État. On a souvent la réaction à l'égard de certains évêques, dont on devrait savoir ce qu'ils ont fait, mais on se dit mais quand même et puis quelquefois ça joue, en tout cas pour les évêques plus souvent que pour le chef de l'État, malheureusement. Mais il y a une considération même instinctive de la fonction, quand s'en réjouissent ou non, Chirac et Jospin, ils engagent la France.
Vous savez,
engagent la France.
Ce que vous dites, c'est très...
Ce sont les gens qui engagent et qui sont en charge de la France et qui ont la responsabilité de ce qui se fait actuellement au nom de la France.
Est très important, mais je crois que c'est vraiment une question de génération. C'est-à-dire que je suis de la génération juste après vous, et moi, c'est un sentiment, ça,
oui, que je partage,
que je ne partage non mais plus. En aucune manière. Je n'ai strictement aucun respect pour la fonction, parce que les gens qui ont occupé ces fonctions, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de fonctions présidentielles, fonctions ministérielles, de fonctions de représentation nationale, ces gens-là, depuis très longtemps, sont allés tellement loin dans la crapulerie, la malhonnêteté, l'ignominie, la cochonnerie morale, qu'ils ont fini par dégueuler sur leurs vêtements, et ils puent littéralement. Ils sentent ils sentent la mort, ils sentent la maladie, ils sentent la saleté. Et moi, j'ai aucun respect pour eux. Je n'ai strict, quand je vois Chirac, je suis, c'est littéralement, j'ai le souffle coupé, cette émission dont parlait Camille tout à l'heure, quand j'ai vu apparaître ce crétin absolu, prenant la parole pendant 2 minutes pour nous expliquer qu'il fallait arrêter de nourrir les vaches avec de la farine animale. Mais vous dites, mais c'est pas possible,
oui,
c'est pas possible,
je
rêve ou quoi? Mais je rêve. C'est dans un pays, ça se passe dans un pays où on assassine 250 000 enfants par an.
On assassine 250 000 enfants par an et cet abruti vient nous dire qu'il faut changer l'alimentation des vaches. Mais vraiment, vous vous dites, comment voulez-vous avoir le moindre respect pour un être pareil?
Pour la personne.
Mais même pour la fonction. Mais... Parce qu'avant, vous aviez Mitterrand qui était un voleur. Réussi, avant, vous aviez eu Giscard qui était un sauteur. Avant, il y avait Pompidou qui était un loufia de Rothschild. Avant, vous aviez De Gaulle qui est un bradeur de l'Algérie française. Donc, ça fait maintenant 50 ans que cette fonction...
Plus que ça. Avant, vous avez eu Fouché et Talleyrand, que je ne cite pas par hasard.
Aucun respect, rien. Le mépris le plus absolu
ils pour ont cette réussi bande de aussi, ils ont réussi aussi à vous rendre anarchiste. C'est dommage.
Non, pas du tout. Je suis anarchiste d'un seul. Moi, je suis monarchiste. Voilà. La monarchie, c'est l'anarchie plus un. Vive le roi, nom de bleu.
Quand dit
je bois les paroles de...
Bon, mais quand une fois que vous les avez bu, que vous les avez goûtées...
Oui, je les goûte, cependant, moi je ressens exactement la même chose.
Je suis un peu provocateur, là.
Oui, non, je suis...
Non, parce qu'en plus, tu me diras, d'accord.
Non, mais disons que... Non, mais c'est vrai qu'on est sur Radio Courte. Vous écoutez Radio Courte, vas-y. Mais, non, je ressens ce phénomène de génération, oui, que connaît Serge. Effectivement, moi, je n'ai... Mais bon, on a sans doute pas la même expérience, donc on n'est pas, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas été éduqué par les mêmes écoles.
Que vous déclarez dans un de vos ouvrages, avoir parfaitement conscience de la destruction de toute autorité dans la société.
Oui, mais ces autorités auxquelles vous pensez en parlant de Chirac et des autres ne sont pas, à mes yeux, une autorité légitime, donc je ne les ai jamais regardées comme telles.
L'autorité, ça se mérite, ça peut pas procéder du grand nombre. Je vais répéter ce que je dis toujours.
Non, mais vous êtes d'accord.
Bien entendu. Sinon, le pilote de l'avion serait élu avant le décollage.
Vous dites qu'ils engagent la France. Pour moi, non. Enfin, c'est la République française.
Qui dérive de la responsabilité, effectivement, assumée.
Non, il y a simplement des personnages, enfin il y a un système qui occupe la France, qui s'appelle la République, et des personnages qui s'occupent de diriger la République. Mais pour moi, ça va pas au-delà.
C'est l'autorité qui procède d'un...
Ça va bien au-delà, parce que demain, la France est envahie, et on n'a plus d'armée. Alors vous me direz que c'est une hypothèse théorique.
Mais
ils ont quand même le pouvoir de défendre le territoire national en vous mobilisant.
Ben, ils vous en donnent. Aujourd'hui, la France est envahie. Qu'est-ce qu'ils font contre cette invasion?
Ils ne le font pas.
Et ben voilà. Donc ils ne feront pas mieux demain.
Mais vous dites qu'ils ne le font pas. Mais c'est donc qu'ils devraient le faire. Et qu'ils auraient l'autorité de le faire.
Non, mais on en revient à la grande question des deux patries soulevée par Jean de Vigry. Et que, je sais que vous en avez abondamment parlé et à juste titre, même si je ne partagez pas nécessairement votre point de vue dans présent, mais je crois que c'est la grande question, les deux patries. Moi, j'adhère pour une très large part à ce qu'a pu écrire dans son livre.
Il y a un auditeur tout à l'heure qui a envoyé un message que je vais lire maintenant parce que ça me paraît, enfin, si je le retrouverai de toute façon, je l'ai de mémoire. C'est la fameuse phrase de Drieu-La Rochelle qui dit il n'y a plus qu'une façon aujourd'hui d'aimer la France, c'est de la détester telle qu'elle est. Ce qui est important dans cette phrase, c'est aujourd'hui, parce qu'évidemment, elle a été écrite probablement en 44, 45.
Oui, mais alors ça conduit au suicide.
Non, pourquoi? Mais ça conduit à l'amour de la vraie France.
La sentence de Drieu-La Rochelle.
Aimer la France, c'est la détester telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, moi, je déteste la France.
Je pense qu'on doit être beaucoup à avoir cette impression.
Alors, c'est pour ça que je n'appelle pas la France. Je dis, ce que je déteste, c'est l'Hexagone.
Mais Jean Madiran a raison, dans la mesure où Drieu-La Rochelle n'a pas, lui, un appareil doctrinal, enfin politique, qui lui permette de transcender ça, d'aller au-dessus. Donc, effectivement, lui, ça le mène au suicide. Mais pas nous, monarchistes, bien sûr.
Non. Moi, je le dis solennellement, si un jour je me suicide, ça sera
un assassinat.
Ouais. C'est intéressant ça. Pourquoi vous ne vous suicidez pas nous monarchistes? Moi je dirais quand même, pas nous catholiques.
Oui. Oui, mais c'est la même chose.
Il y a quelques monarchistes protestants, voire même orthodoxes.
Oui, je l'ai fait. Bien sûr, je leur ouvre grand les portes de la revue Fidélis. Ce sont des gens de qualité d'ailleurs, Vladimir Volkov et tout de même. Ce n'est pas n'importe qui.
Écoutez, chaque fois qu'on parle d'un orthodoxe, et on dit un orthodoxe bien, on cite Volkov. Ça devient gênant, il y en a d'autres. Moi, j'aime beaucoup Volkov. Il vient de publier d'ailleurs un bouquin formidable qui s'appelle L'Enlèvement, que je recommande dans le Libre Journal. Mais il y a d'autres, il y a des prêtres orthodoxes qui sont.
Voilà qu'un jour, Rato,
il y a Monseigneur Séraphim.
Une biographie de Volkov, ça serait intéressant.
Pourquoi vous dites ça? C'est...
Ben, comme ça, parce que je le vois là qui sourit malignement comme quelqu'un qui
en sait plus qu'il n'en dit, mais d'une malice dans son sac. Bon, alors revenons à au taureau fou. Oui, vous voulez poser des questions?
On peut peut-être lire les messages. Voilà,
alors, posons les questions. Recevons des messages.
Qui reprennent depuis le début. Comment expliquez-vous qu'à 9h du matin, c'est Bush élu, et puis tout d'un coup, on ne sait plus? Alors, Bush est contre l'avortement pour la famille et le retrait des troupes au Kosovo.
Non.
Lorsque des dizaines de millions de voix se répartissent également, à quelques milliers près entre deux personnes, nous sommes tout simplement en face de l'application de la loi des grands nombres. Tout à fait comme un nombre important de lancers d'une pièce de monnaie donne 50% pile et 50% face. Et on remarque le même phénomène en France avec des résultats 49-51. La démocratie, c'est le hasard appliqué au grand nombre. Comment se fait-il que les médias français expriment un tel ostracisme à l'égard de Bush? Certains médias le traitent d'abruti. Mais nous, Français, nous pourrions peut-être faire comme Serge Le Bécache tout à l'heure et balayer devant notre porte.
Comme si certains médias français traitaient Chirac d'abruti. Oui, j'ai jamais entendu ça nulle part. Jamais. Surtout pas sur Radio Courtoisie.
Y a-t-il beaucoup de retraités corses?
Qui dirait une chose pareille?
Comment y a-t-il Voulez-vous ne pas parler tous en même temps? Oui, plusieurs auditeurs nous l'ont dit tout à l'heure. Bon. Y a-t-il beaucoup de retraités corses en Californie?
On va en parler des retraités. Moi, j'ai quelque chose à vous dire.
Ah, des retraités corses, je ne sais pas.
Quel est le sens?
Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose sur les retraités.
Non, de Floride.
Je n'ai rien contre les retraités. Je reprends. J'ai dit, je n'ai rien contre les retraités. Mais je m'interroge sur la question de savoir s'il est tout à fait bénéfique pour les États-Unis que l'avenir du pays soit remis à la décision d'une demi-douzaine de retraités en Floride. Qui vote par procuration.
Voilà. Oui, mais les Corses en Californie, expliquez-vous là-dessus.
Je n'ai pas entendu ça.
Il n'en a jamais été question.
Non.
L'auditeur va nous
expliquer. Le seul Corse que je connais, c'est Camille Galli, qui est pas en Californie. Qui n'est pas Corse non plus.
Non, mais il est... C'est peut-être californienne, je ne sais pas.
C'est Claude Giraud.
Non, mais c'est vrai.
C'est notre ami Claude Giraud.
C'est Claude Giraud qui est Corse. Mais c'est vrai que j'ai toujours cru que Camille était Corse, parce que... Jusqu'au moment où elle m'a détrompé, parce que je trouve qu'elle a à la fois l'allure et le caractère d'une femme.
Mais c'est Colomba, mais enfin... Ouais.
Alors, je continue les petits messages. Il y a justement une demande en mariage pour vous. Je suis prêt à épouser Madame la directrice de Rivarol. J'irai en prison à sa place. Et je relirai Balzac.
Je remercie beaucoup ce charmant auditeur.
Vous devriez accepter.
Enfin,
c'est peut-être une auditrice d'ailleurs, avec les nouvelles lois qui
sont. Ah oui.
C'est à peine un compliment quand même. Si la seule raison pour laquelle il veut vous épouser, c'est pour aller en prison.
Ah, mais c'est du dévouement.
C'est pour lire Balzac. Comment ça, c'est du dévouement? C'est un bonheur, Balzac.
D'aller en prison à sa place.
Cela dit, je ne suis pas sûre maintenant qu'en prison, on puisse tranquillement lire Balzac. Parce que je pense souvent. Avant, j'avais une idée très romantique de la prison. Je me disais, enfin, je pourrais la lire, Bastille, je pourrais... Mais être avec entouré de 50 beurres qui mettront un ou deux beurrettes à Fleury, mais Rogis...
Ça vous enthousiasme pas, quoi.
Qui, où ça doit ressembler à une ménagerie et où, en plus, il n'est pas sûr qu'on nous donne des livres, d'ailleurs. Quand on pense que quelquefois, enfin, par exemple, La Joie a eu beaucoup de mal à avoir un crayon et du papier...
Étant donné ce qu'il en fait, j'en comprends qu'ils aient évité de lui
non,
donner.
Non, mais c'était...
du crayon, vous voulez dire?
Non,
Et non, parce qu'il s'en sert pour écrire des choses qui ne leur font pas forcément plaisir. Puis, c'est
donc,
le seul défi qui gagne ses procès.
Je pense que maintenant, ça n'est plus du tout Pushkin à la prison Saint-Pierre-Saint-Paul. Ça n'est plus Pellico qui écrivait Mes prisons. Et,
ça n'est même plus seul
pour nous, si l'on était prisonnier de pensée, ça serait sûrement très difficile et peut-être n'aurions-nous pas beaucoup la possibilité de penser soumis au harcèlement qui nous serait imposé.
Donc vous éconduisez votre soupirant.
C'est la suppression, ouais. C'est la suppression de ce qu'on appelle le régime politique.
Ouais. Voilà.
D'autres messages.
Il me semble que M. Chirac a été ministre de l'Agriculture. Quant à moi, j'ai été pendant 23 ans représentant en matériel agricole. J'ai cessé en 1973, écœuré par la nourriture et les engrais employés pour les animaux, pour les légumes et j'en passe. Alors, je ne m'étonne pas du tout que depuis quelques années, on en arrive à nourrir les bêtes avec la chair de leurs semblables. Je certifie sur l'honneur avoir été représentant de matériel agricole pendant 23 ans en Normandie.
Et ça, c'est quand même, c'est intéressant parce que c'est une opinion d'orfèvre, un radier.
Oui, alors, en l'occurrence, enfin, sauf si on lit encore des messages d'auditeurs, j'aurais aimé un tout petit peu intervenir sur l'affaire de, entre guillemets, la vache folle. Il y a un premier point qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que tous les animaux, pratiquement, sont tous nourris de la même manière. Donc, ce qui se produit actuellement avec le bœuf se produit déjà certainement avec le porc. Et donc, c'est pas parce que dans certaines écoles on interdit ou que
le poisson,
avec le poisson.
Oui, ça, attendez, une toute petite réserve, après, si vous permettez, parce que c'est vrai qu'ils sont tous nourris avec des farines animales, mais l'hypothèse retenue, c'est que il y a une incapacité de certains organismes, qui sont les organismes herbivores, à assimiler des protéines animales. Rudolf Steiner avait écrit il y a 100 ans un texte que j'ai publié dans le Libre Journal où il disait. En 22, je crois que c'était plus tôt que ça, mais en 22, donc il y a 78 ans. Il a publié un texte qui disait textuellement, si on nourrit une vache avec de la viande, on la rendra folle. C'est textuel. Et donc il y a longtemps qu'on sait que les herbivores ne peuvent pas manger d'alimentation carnée. En revanche, le porc est omnivore. Donc l'alimentation carnée ne le gêne pas. Les poissons sont carnivores, puisqu'ils se nourrissent de poissons, et donc ça ne doit pas gêner. Les poulets, c'est pareil. Alors les seuls, semble-t-il, les seuls animaux qui risquent de développer des encéphalites spongiformes sont les herbivores, qu'on nourrirait avec de la viande, et dans laquelle une protéine se transformant en prion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'est absolument pas prouvé, contrairement à ce qu'on nous serine à longueur de journée, que la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui affecte les êtres humains est la conséquence de l'encéphalite spongiforme bovine qui affecte les bovins. On constate qu'il y a peut-être un lien, mais jamais personne n'a pu prouver quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais.
Enfin, le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est quand même l'extraordinaire capacité, alors je ne sais pas si elle est volontaire ou non, de la presse, parce que toute l'affaire là, a démarré il y a quelques semaines, enfin il y a une quinzaine de jours, avec la découverte de viande dans les magasins Carrefour, bon, qui était une viande nourrie avec des farines animales, etc., etc., les gens sont au courant. Bon, Carrefour a développé une campagne de publicité en mars et avril 2000. Ils ont pris des encarts de publicité dans la plupart des journaux français dans lesquels ils ont certifié qu'ils avaient mis en place des laboratoires, qu'ils examinaient les viandes et que, bien évidemment, toute la filière était vérifiée. Qu'il ne serait, alors qu'il n'était pas tenu par la loi, aucune viande vendue dans les magasins Carrefour ne pourrait être atteinte par quoi que ce soit. Or, c'est ce qui se produit 8 mois après. Il n'y a pas eu un journal français qui a eu le courage de ressortir une seule des publicités qu'ils ont achetées par millions.
Vous connaissez le budget de Carrefour?
Moi, comme je n'ai pas de publicité de Carrefour, je vais publier une publicité dans mon prochain
numéro. Et puis, enfin, dans cette histoire également des farines animales, ce qu'il faut rappeler, c'est que si on ne nourrit pas les bêtes aux farines animales, de toute manière, il faudra les nourrir avec des aliments dans l'état actuel de l'agriculture mondiale et notamment dans les pays développés,
du
maïs transgénique
qui vient des États-Unis.
Voilà.
Et les tourteaux de soja qui servent à nourrir le bétail en France viennent des États-Unis, sont donnés aux animaux français, et pour leur assimilation, il faut faire prendre aux animaux français, parce qu'on pourrait dire il n'y a qu'à fabriquer des tourteaux de soja en France. Ça m'en manque de chance pour que les tourteaux de soja soient assimilés. Il faut ajouter à la nourriture une espèce de catalyseur qui est un produit chimique, à la nourriture du bétail, un catalyseur qui est un produit chimique qui permet l'assimilation du soja, du tourteau de soja par les vaches. Et ce produit, il est breveté par les laboratoires américains et il n'existe nulle part ailleurs dans le monde qu'aux États-Unis. Autrement dit, si on supprime les farines animales, on sera totalement à la merci des fabricants de nourriture pour bétail américains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher plus loin l'explication de cette fantasmagorie. Alors, il y a quand même une chose qu'il faudrait
qui me frappe dans cette histoire de la vache folle, c'est que, comme je le disais à l'instant, on n'a aucune preuve définitive que la maladie de Creutzfeldt-Jakob est liée à l'encéphalite spongiforme bovine. C'est un soupçon. Et c'est un soupçon qui est fondé sur le fait qu'il y a eu en France, depuis le début de la crise, de la panique, 3 personnes qui ont été affectées par la maladie, dont une est morte. Et on suspecte le prion d'être à l'origine de cette mort, c'est-à-dire l'encéphalite spongiforme bovine d'être à l'origine de ce décès et de ces 3 maladies. Et on suppose que ce sont des gens qui ont consommé de la viande infectée. 3 personnes. Pendant ce temps-là, tous les ans en France, et immédiatement, après l'annonce de cette information, 60% des consommateurs de viande ont arrêté de consommer de la viande rouge de bœuf. 60%. C'est un cataclysme économique. Dans le même temps, il meurt par an sur les routes de France 10 000 personnes, en additionnant les morts tout de suite et les morts après 48 heures. 10 000. Est-ce que vous avez entendu dire qu'un seul type ait arrêté d'acheter une voiture ? Absolument pas. Il meurt par an probablement 50 à 60 000 personnes par consommation de tabac. Les gens continuent à fumer. Le tabac ne baisse pas de 60%. La vente de l'alcool, alors qu'il y a des dizaines de milliers de morts chaque année à cause de l'alcool, n'a pas baissé du tout, elle continue d'augmenter. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique comment le peuple le plus intelligent de la Terre peut continuer à se tuer dans sa bagnole, bourré, ce qui lui permet par chance d'échapper au cancer du fumeur, et dans le même temps dire, à partir de maintenant, comment il y a un mort d'encéphalite en sur 60 millions d'habitants en 3 ans. Oh là là là, mon Dieu, j'arrête de bouffer de la viande. Mais c'est un pays toqué. Ces gens-là sont des fous. Les Français sont devenus littéralement dingues. Alors, la question à se poser, c'est qui les a rendus fous? Comment les a-t-on rendus fous? Qu'est-ce qui fait que le peuple le plus spirituel de la Terre est devenu d'un seul coup une espèce d'énorme masse de crétins à qui on fait faire n'importe quoi, n'importe comment? On revient à ce que vous exposiez tout à l'heure, Camille. C'est cette histoire de manipulation par les sondages, manipulation par les médias, d'un jour ou l'autre. Un jour, on leur dit, voilà, être homosexuel, c'est très bien. C'est tout à fait normal. Ah bon, c'est normal? Bah oui, c'est normal. Et on fait un sondage, et 70% vous disent, oh oui, c'est tout à fait normal. Vous seriez embêté d'avoir un fils homosexuel? Ah, pas du tout. Je serais très contente, disent les mères de famille. Mais on vit dans un monde de fous furieux. Et ce que je dis là, il y a des auditeurs qui disent, qui supportent pas d'entendre ça. Parce qu'il y a toujours des gens qui... Alors on me dit, d'ailleurs je voudrais dire à cet auditeur, Monsieur Bekech, tout ce qui est excessif est insignifiant, vous êtes en train de couler Radio Courtoisie. Toutes les semaines, je reçois ce message rédigé exactement dans les mêmes termes. Alors, je veux dire, monsieur, ne l'envoyez plus, je le pose devant moi, là, voilà. Il est sur la table de l'émission. Ouais, il est là devant moi, et toutes les semaines, je le lirai avant de commencer l'émission, comme ça vous saurez que c'est pour, vous pouvez économiser un appel téléphonique. Dès qu'on commence à réagir contre l'abrutissement, comme nous le faisons tous avec nos journaux, d'une part, nous sommes censurés partout, il n'y a pas une télévision, il n'y a pas une radio, il n'y a pas un confrère qui nous cite, un confrère, mais pas trop, il n'y a pas un journal qui nous cite, sinon pour dire, le quotidien d'extrême droite du Front National présent, le journal d'extrême droite Rivarol, la feuille d'extrême droite anti-maçonnique d'Emmanuel Ratier. Vous,
moi je suis pas là,
Ça va, attendez, ça vous pend au nez comme un sifflet de rond, je peux vous le dire, ou le journal révisionniste de Serge de Bekech, que je considère d'ailleurs pas du tout comme une insulte, je m'empresse de le dire. Mais
tout journal devrait être révisionniste.
Par définition. Un journal est forcément révisionniste, autrement c'est un bulletin paroissial. Là c'est autre chose.
C'est le journal officiel ou le bulletin du parti.
Alors, je vais parler longuement là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que vous avez des réflexions à faire, des contestations, des protestations? Oui, j'imagine, mais vous pouvez parler aussi. On a donné longuement la parole aux auditeurs. Non, vous voulez encore leur...
Alors, bien, allons, allez. Oui. J'aurais aimé savoir de la bouche des responsables de la presse que j'aime si l'élection de M. Bush changerait quelque chose à la politique américaine à l'égard des Serbes, du Moyen-Orient et de la France.
Réponse non, mais j'ai devancé l'appel, je vous en prie, répondez.
Bah, quand on voit comment le nouvel ordre mondial était intervenu en Irak
par Bush senior,
je ne vois pas pourquoi ça changerait tellement sous Bush Junior. Il veut retirer les troupes américaines des Balkans et notamment du Kosovo, mais ça a toujours été la politique américaine, de toute manière, intervenir physiquement, que les boys interviennent le moins possible physiquement et faire le seul travail par les Européens. C'est ce qui a été fait au sol depuis le déclenchement de forces alliées le 24 mars 99 contre la Serbie. Donc ça ne change rien du tout.
Je parlais à l'instant du livre de Volkov, c'est exactement le thème du livre. C'est comment les Américains font faire le sale boulot, en l'occurrence par les Français.
Parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup non plus, alors qu'on parle tellement des farines animales, c'est qu'on est quand même très gêné devant le syndrome du Golfe qui affecterait un nombre beaucoup plus grand d'anciens hommes, d'anciens engagés dans l'opération Daguet. Et là, l'armée commence à reconnaître certaines responsabilités. Et on se demande même si ce n'est pas nos propres obus d'uranium appauvri qui ont contribué à provoquer ce syndrome. Mais c'était une bonne guerre.
C'était la première fois que c'était utilisé, les matériels avec uranium appauvri. Ils ont été employés une deuxième fois au Kosovo.
Moi, j'ai l'impression qu'il faut savoir.
On ne connaît pas encore, d'ailleurs, le coût humain cancer,
Mais le principe, c'est très simple, parce que les gens ne doivent pas très bien comprendre c'est les explosifs. Enfin, c'est-à-dire que ce sont soit des obus qui ont un très fort pouvoir de pénétration. Et en fait, des balles, c'est surtout des 30 mm, quand elles atteignent leur cible, l'uranium appauvri qui se trouve à l'intérieur
du projectile
se liquéfie, accroît la pénétration, et au moment où il se liquéfie, tout le côté radioactif, etc., est inhalé par tous les gens qui se trouvent aux alentours, il irradie le sol, et après, ça dure pendant des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Et donc, il y a des séquelles pour les gens, bien après que tel obus ou telle balle ait atteint sa cible ou non.
J'ai publié un article du commandant Bunel il n'y a pas longtemps sur ces questions des maladies liées ou pas liées à l'uranium enrichi, et il semblerait que qu'il y ait un doute très très fort sur la nocivité réelle de l'uranium appauvri. En fait, encore une fois, on est probablement, ou semble-t-il, dans une hypothèse de manipulation, car il semblerait que ça soit moins l'uranium appauvri qui soit à l'origine des troubles de la maladie du Golfe et autres, que d'autres produits qu'on a donnés aux soldats qui étaient sur place, dont on leur a ordonné la prise pour éviter des effets secondaires divers problèmes qui se posaient sur le champ de bataille.
En prévention d'une guerre chimique.
En prévention d'une guerre chimique. Et que on ne savait pas la réalité du danger de ces produits ou les conséquences. On n'avait pas testé correctement ces produits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont malades. Et pour cacher la vérité, on dit que c'est l'uranium appauvri. Parce que si on dit la vérité, on va retomber sur un truc du genre, sans contaminer, ou vache folle, c'est-à-dire mise en circulation de produits nocifs et dommages et intérêts, et c'est les laboratoires qui fabriquent ces médicaments qui sont obligés de payer, et là c'est la panique totale, parce que ça peut représenter des centaines de milliards de francs. Voilà, c'est l'explication qui était avancée par le commandant Bunel, qui connaît quand même un petit peu ces questions. Vous lisez d'autres messages?
Oui. Alors, question sur les retraités. C'est une explication sur les retraités corses. Si l'on doit recompter tous les bulletins en Floride, cela ouvre la porte à des tricheries, des manipulations, comme aux élections américaines de 1960. J'espère cette fois être mieux compris.
Bon, très bien.
Nous avons tous compris.
Nous avons compris.
On a pu entendre à midi sur Radio Courtoisie que les agriculteurs étaient en train de découvrir que cela coûtait moins cher d'élever des vaches avec de l'herbe. Les bouchers, les boulangers, les épiciers sont en voie de disparition. Leur avis ne comptera plus bien longtemps. L'avis qui compte, c'est celui des fonctionnaires et celui des assistés. En parodiant Georges Clemenceau, on pourrait dire que la démocratie est une affaire trop sérieuse pour la confier au peuple. Pour étayer ce que vous avez dit à propos des médias, faisant fi des résultats de sondages qui ne vont pas dans le sens qu'ils voudraient, il y a 2 mois, TF1 demandait aux visiteurs de son site internet s'ils étaient d'accord pour prolonger de 10 à 12 semaines le délai pour avorter. La réponse a été non à plus de 83%. Au sujet de la torture, n'était-ce pas un gouvernement socialiste qui nous dirigeait à l'époque ? Donc il faut faire le procès du socialisme.
Oui, c'est ce que je dis d'ailleurs, que c'était le gouvernement de Guy Mollet et que, en quelque sorte, Jospin renie le passé du Parti socialiste.
François-Georges Dreyfus avait dit que le ministre de la Justice était un certain François Mitterrand qui avait donné comme consigne aux armées de rétablir l'ordre par tous les moyens. Et sur ce sujet, Arte diffusera demain « Nous n'irons pas la faire » sur les réfractaires à la guerre d'Algérie. Alors là, c'est un fax qui est mal imprimé. Je ne peux pas lire les auteurs de... Je ne lis pas bien les noms.
C'est en effet, on a un écho là-dessus d'Angelelli. C'est en hors d'œuvre au 11 novembre, après les mutins de 17, les réfractaires la guerre d'Algérie.
C'est quand même pas tout à fait la même chose. Je veux dire, le rapprochement entre les mutins de 17 et les réfractaires et les déserteurs de l'Algérie.
Non, il y en a eu très très peu. C'est vraiment tellement. Ça a été un phénomène
et
extrêmement marginal.
Les mutins de 17, c'est des gens qui s'étaient fait casser la gueule pendant des mois. Et des mois sans aucun moyen enfin dans des conditions effroyables, qui étaient accablés de tristesse, de misère, de vermine, de maladie, ils vivaient dans le froid, dans la boue, etc. Ils ont fini par craquer, pas beaucoup, tandis que les déserteurs de l'Algérie, c'est quand même tout à fait autre chose. Moi, j'étais gamin, mais je me souviens de ce que c'était. C'était quand même une vieille bande de péteux, hein. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et d'ailleurs, l'émission sur les déserteurs, sur les mutins de 17 était... L'opération sur les mutins de 17 a foiré lamentablement. Ils ont arrêté très vite. Alors, tandis que là, sur l'Algérie, ils remettent ça. Puisque...
Oui, mais enfin, c'est d'autant plus avec tout ce qui se passe actuellement en Algérie. Et si on tient compte du renouvellement de la population algérienne qui est extrêmement jeune... et pour laquelle la guerre, la bataille d'Alger et la torture, c'est les guerres de Jugurtha, à peu près.
Oui, à peu près.
Donc c'est une opération uniquement franco-française. Et je suis convaincue que, c'est ce que je répète et je ne le répéterai jamais suffisamment, puisqu'il y a des naïfs qui le croient encore, que les lobbies... ne s'annule pas, il s'additionne. Que chaque fois qu'on est obligé de faire une concession à un lobby, on est obligé de faire une abdication devant un autre lobby. Bah, et que donc, avec la situation actuelle au Proche-Orient, chaque geste en faveur de la communauté juive doit être... ce geste doit correspondre un geste vis-à-vis de la communauté arabo-musulmane.
Jean Madiran.
Non, mais je ne veux pas vous interrompre.
Non, je crois que...
C'est tout.
Un peu en marge de ce sujet qu'aborde, du sujet qui vient d'aborder Camille, c'est le problème pour le Français, la population ordinaire, la croissance actuelle... En raison des circonstances de l'État qui a été créé en France, mais la croissance ordinaire de l'insécurité. La croissance de l'insécurité, nous avons un peu dans le Parisien, maintenant, mais dans les journaux de province, on découvre, d'ailleurs dans le présent, nous y faisons largement écho, des choses de plus en plus extraordinaires. Ce qui s'est passé à Pau récemment, par exemple, ou bien des meurtres. Des meurtres, les meurtres dont nous avons parlé, c'est parce que il ne baissait pas le regard, ou bien il m'a refusé une cigarette, et le fait, alors psychologique peut-être aussi, qu'on se demande si le public tient tellement à ce qu'on lui en parle. Parce que c'est un peu toujours la même chose. Enfin, nous avons des lecteurs qui nous écrivent ça. Je ne sais pas si Arrête de Courtoisie vous dit.
Si, il y a un message là qui dit exactement ça. L'auditeur nous dit la presse de gauche, elle présente une vision prospective de l'information, tandis que vous, la presse de droite,
vous c'est tout à fait prospectif quand on montre quand on montre le développement. Oui,
ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas de prospective dans le. Ce qu'il dit, c'est dans ce que vous dites là ce soir, il n'y a pas de prospective. C'est-à-dire qu'on
Attendez, la presse de gauche, qu'est-ce que c'est la prospective? C'est comment perdre 5 kilos d'ici l'été prochain?
Non, et puis il y a aussi.
Non, c'est le progrès. Et puis c'est les forces de progrès.
Les lendemains qui chantent.
Voilà, les forces de progrès. Les forces de progrès, le fait qu'on va changer l'homme, que les droits augmentent, que ça. Oui, il y a.
C'est l'esprit de gauche.
Mais l'insécurité. L'insécurité. Ça fait des années qu'on en parle. Mais ça fait des années qu'elle augmente. Et on devrait dire d'ailleurs le manque de sûreté. Puisque
de toute manière, ne parlons pas, Jean, d'insécurité, parce que ce mot d'insécurité, nous faisons le jeu de l'adversaire. C'est la criminalité. L'insécurité n'est que le résultat de la criminalité. L'insécurité est une litote, un euphémisme, un faux semblant pour éviter.
C'est une impression. On a l'impression qu'on n'est pas en sécurité.
La réalité, ça n'est pas l'insécurité. La réalité, c'est la criminalité.
D'ailleurs, la délinquance. Originellement, le mot sécurité n'est pas le bon, parce que la sécurité n'est pas la sûreté. L'insécurité, c'est la sécurité ou l'insécurité, originellement, étymologiquement, c'est seulement un sentiment. Mais quel que nom qu'on lui donne, la criminalité est un terme exact, mais je dirais trop englobant et trop ordinaire. Parce que ce qui augmente, c'est un état d'antisociété, un état de tension tribale. De tension raciale. Parce que le MRAP, la LICRA, les organisations antiracistes viennent de nous fournir, des démonstrations, je ne dis pas forcément du racisme de leurs dirigeants, mais en tout cas, qui se surveillent quelquefois, mais en tout cas, de l'effet contraire de leur prétendue médication antiraciste, puisque quand ils ont fait défiler leurs troupes, ça a été pour les cris de ces salauds d'arabes, les cris de mort aux juifs.
Qu'on a entendu.
Mais alors, ces spécialistes de l'antiracisme, reconnus par la loi, et qui nous poursuivent, et qui ont un droit spécial de poursuite auprès du parquet, d'introduire des poursuites. Mais ils montrent que, auprès de leurs militants, quand ils les rassemblent, ils ont développé, ou ils n'ont pas su guérir, ou ils ont permis de s'exprimer même, un racisme mortel, puisque c'est mort aux juifs, mort aux arabes, disent les autres.
Eh bien, justement, c'est ce que je dis dans le prochain numéro, puisque je suis poursuivie, le 15 novembre, donc mercredi prochain, je ne suis pas sûre d'y aller, d'ailleurs parce qu'il y a eu des quantités d'erreurs dans la procédure, et j'espère bien que le procès sera, que Delcroix verra ses conclusions acceptées. Mais nous sommes poursuivis par le MRAP, qui se proclame victime, pour diffamation raciale envers la communauté juive. Alors, nous avions écrit... C'est la phrase qui est retenue. Il est quand même à propos des 25 ans de la loi sur l'avortement. Il est quand même frappant que toutes les lois et propositions de démantèlement de la famille portent le nom de membres de la communauté, de la loi Naquet sur le divorce aux lois Neuwirth en passant par le rapport Nisan. Voilà la phrase qui donne lieu à diffamation raciale. D'où j'en déduis que pour le MRAP, il est préférable de crier mort aux juifs.
Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que...
Le MRAP, dont la vitrine a été à deux reprises vandalisée par le Bétard, essaye de se refaire une virginité sur notre dos.
Sans arriver à guérir ses adhérents du racisme qui vient encore de manifester.
Je vous fais remarquer une chose. Il y a eu plusieurs cas de poursuites. J'en ai un en tout cas en mémoire, certains, contre des dirigeants de la droite nationale, parce que des journalistes avaient rapporté que dans l'assemblée qui assistait au discours de ces dirigeants, des participants non identifiés avaient crié les phrases que vous avez rappelées tout à l'heure. Les invectives que vous avez rappelées. Donc, je dis bien, en bonne logique, il devrait être possible
de poursuivre les organisateurs des manifestations au cours desquelles ces phrases ont été prononcées, que ce soit des phrases prononcées lors de manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes, ou de manifestations pro-israéliennes et anti-palestiniennes. Normalement, ce qui a été bon pour Le Pen devrait être bon pour les autres.
Pardon. Oui, mais là, c'était l'initiative du parquet, naturellement. C'était l'initiative du parquet, et on sait très bien...
C'est bien ce que je veux dire, c'était l'initiative du parquet. Alors, pourquoi le parquet qui a poursuivi le Front National à l'époque où quelqu'un dans la salle avait crié, soi-disant, sur dénonciation du Monde?
Parce que leur antiracisme est un faux antiracisme, un soi-disant antiracisme, est un mensonge. Parce que ce qu'ils veulent poursuivre en réalité, c'est la préférence nationale, c'est la préférence religieuse, chose qui n'a rien à voir avec un racisme. C'est l'assimilation de la préférence nationale, je ne dis pas que l'expression soit la meilleure, mais enfin c'est celle qui a le cours le plus fréquemment, la préférence religieuse, qui dit quand même une part forte de ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas, qui sont assimilés au racisme, poursuivis par racisme, et c'est le programme, c'est véritablement la finalité du marxisme-léninisme qui a deux adversaires qui veut détruire, deux adversaires qui ont fait succomber le communisme en URSS, c'est la nation et la religion. Essentiellement la nation et la religion. Et ils poursuivent, et nourrissant, si on peut dire, le sentiment national et la foi religieuse, étant la base, la famille. Et on voit bien que être contre l'avortement, d'ailleurs, on se fait accuser de nazisme.
Ben oui, bien sûr.
Parce que c'est l'extrême droite. Extrême droite, donc racisme, donc nazisme, etc. Et donc, on peut dire que chez... Il doit y avoir quelques imbéciles parmi nous. Enfin, je veux dire par là quelques gens qui n'ont pas de cohérence dans l'esprit. Mais ça montre bien qu'on peut élever un grave soupçon contre la sincérité de l'antiracisme qu'ils invoquent pour poursuivre la droite nationale. Il y avait le procès contre Catherine Maigret.
On va en parler. Justement. On va en parler.
Qui justement, elle est condamnée pour racisme. Oui. Pour la préférence nationale. Il n'y a absolument aucun racisme dans ce qu'elle a...
Par la LICRA, dont le président Patrick Gobert avait lui-même voté une prime à la naissance, quand il était conseiller municipal de Courbevoie.
Une prime à la naissance, mais française.
Qu'est-ce que c'était la phrase, le duc d'Orléans
ignore ce que... Oui.
Voilà. Le roi de France ignore.
Voilà. C'est ça. Ben voilà, la gouverne, c'est ça.
Oui, merci de la comparaison.
Bon, ben, parlons d'un
Orléans. Même les légitimistes, ça dit.
Non, désolé, on peut tout dire, ma femme. Oui, mon petit.
Un auditeur nous informe qu'aujourd'hui, Catherine Maigret et Hubert Fayard ont été condamnés par le tribunal d'Aix pour l'histoire de la prime à la naissance à Vitrolles à 3 mois de prison avec sursis, 100 000 francs d'amende et 2 ans d'inéligibilité.
Oui. C'est énorme, mais là, je suis très contente que ce lecteur intervienne parce que j'avais eu, et je pense Emmanuel Ratier aussi, les communiqués de Bruno Maigret et de Jean-Yves Le Gallou qui malheureusement omettaient de préciser, protester, mais ne donnaient pas les condamnations. Donc je n'en savais rien en quittant le journal.
Et avec l'inéligibilité, car c'est et
l'arme habituelle.
Plus que les amendes, et là, ce qui les intéresse dans les auprès des élus, c'est d'étendre l'arme de l'inéligibilité. C'est
à un an, enfin quelques mois des élections municipales, c'est parfait.
Ça ne mange pas de pain.
Et toujours sur le même sujet, il y a un communiqué de presse de Jean-Marie Le Pen. Le Front National s'insurge contre les scandaleuses manifestations de haine anti-française et de partialité dont une certaine justice se rend coupable, hélas, de plus en plus souvent. Entre l'impunité annoncée du secrétaire national du Parti communiste, qui a pu, par des artifices de procédure, échapper à l'examen d'une affaire de corruption, et en application d'une loi communiste, la lourde condamnation de Mme Maigret, coupable, sic, d'avoir institué une prime de naissance aux familles françaises, le contraste est saisissant.
C'est un très bon communiqué.
Bah, c'est bien ça va, c'est une bonne nouvelle, enfin. Ça fait un moment qu'on attendait des bonnes nouvelles.
Non, il y en a eu déjà.
Ah ben, j'ai pas remarqué, non. On doit pas avoir les mêmes lectures.
Comment, quand nous avons écrit pour rendre justice à Le Pen, pour ses condamnations.
Vous, c'est pas étonnant, vous.
Excusez-moi, cher auditeur, de faire du bruit. Ce ne sont pas des billets, mais les messages qui sont nombreux que vous entendez. Alors, la préférence nationale est un slogan. Il n'existe de préférence nationale qu'au regard du droit national. Qu'attendent les journalistes pour le dire? Ça, c'est M. Chabanis qui vous téléphone.
Alors, je voudrais vous montrer à quel point c'est difficile de se faire entendre. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Une auditrice, je suis consterné. Comment Beckett peut-il dire que le peuple français est le plus intelligent, le plus spirituel du monde? C'est faux, c'est de la mégalomanie, ou alors il a mangé de la vache folle. Voilà. Vous comprenez? Il y a des moments, les bras vous en tombent des mains, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me disais, j'ai peut-être fait un peu fort quand même dans l'anti-franchouillard, je suis allé un peu loin, en
disant
un peuple de larves et d'abrutis et tout.
Oui.
Voilà, une dame qui dit, mais comment pouvez-vous dire que c'est le peuple français? Voilà la réponse à ma question, c'est tout.
C'est de... Vous dites depuis des années que vous répétez la même chose et que la criminalité augmente. Alors, à quoi servent vos redites si on ne se groupe pas pour se défendre? Est-ce à dire que si je suis poignardée, je serai heureuse de ne pas mourir idiote? Cela grâce à vous. Merci tout de même.
Bah, c'est déjà mieux de mourir informé que de mourir sans savoir ce qui vous arrive.
Puis alors, il y a un rappel sur la vache folle. Il y a plus de risques de mourir dans une banlieue qu'en consommant de la viande de bœuf. Mais nos politiciens n'en parlent pas.
C'est plus dangereux de regarder un gang ethnique dans les yeux en descendant un escalier roulant que d'aller bouffer trois os à moelle chez Denise, ça je vous le dis. Alors,
je vous dirais même en tant que fumeuse invétérée, malgré les mises en garde, qu'il est peut-être plus dangereux de refuser une cigarette que de la fumer.
Bien, alors il nous reste 5 minutes, ça passe vite le temps de cette émission. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voudriez...
Moi, l'actualité, ça aurait dû être aussi ce livre que je trouve extraordinaire, dont je vous recommande la lecture, de Gérard Maudru. Retraite, le mensonge permanent.
On va en parler.
C'est un livre absolument extraordinaire parce que Gérard Maudru est un chirurgien, c'est le président d'une caisse de retraite également.
C'est la plus grosse caisse de retraite, il y a 170 000 adhérents. C'est président de caisse de retraite des médecins libéraux et on peut saluer que son courage parce qu'il s'est vraiment imposé contre les lobbies médicaux. Qui jusque-là dirigeait tout.
Alors là, écoutez bien ces chiffres-là, parce qu'il parle du problème des retraites habituelles. Hein. Aujourd'hui, il y a 2 cotisants pour un retraité, demain, il y en aura un pour un. Mais il parle aussi de l'inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé. Sachant qu'aujourd'hui, les fonctionnaires touchent en moyenne 10% de plus que les salariés du privé. Il donne des exemples. Les employés et les retraités d'EDF ont 90% de réduction sur le tarif EDF, même pour leur résidence secondaire. Les employés et les retraités de la SNCF ou d'Air France ont des transports gratuits pour eux, pour leur famille, pour les retraités. Sachant qu'à la SNCF, il y a 180 000 salariés et 350 000 retraités. Vous y mettez donc les familles, tout ça voyage gratuitement. Je me demandais pourquoi, moi qui ne voyage pas en première, les premières sont pleines pratiquement. Évidemment, ce sont ces gens-là, en fait, qui se baladent. Ensuite, la commission des comptes de la Sécu a calculé qu'en 1995, il y a 5 ans, les cotisations des fonctionnaires couvrent seulement 18,5% des pensions versées. Le reste est payé par vos poches. Mais ça, c'est la moyenne. Écoutez bien les chiffres. Seulement 11% des cotisations des employés EDF couvrent les pensions de retraite. Seulement, à peu près le même chiffre pour la RATP, 6% des cotisations des employés de la SNCF serviront à payer leur retraite. 4% pour les retraités militaires. Un employé SNCF part à la retraite à 50 ans, pour 65 ans pour les professions libérales. En 2015, résultat des courses, 2,7 millions de retraités publics coûteront aussi cher que 13,5 millions de retraités du privé. La Poste versera plus de retraites que de salaires. La qualité du service public, la SNCF est toujours en grève, hein, donc 6% de leurs cotisations vont payer leurs retraites, mais ils sont toujours en grève. Aux impôts, 40% des appels téléphoniques sonnent dans le vide, etc. Alors le sommet, c'est évidemment les élus. Bon, là, c'est des chiffres absolument extraordinaires. Ils parlent d'une caisse de retraite des élus du Conseil Général de l'Hérault. Bon, les choses sont revenues dans l'ordre. Mais alors, on cotise 1000 francs par an pendant 5 ans, et on touche 20 000 francs par an pendant 20 ans. Ça, c'est le placement fabuleux.
Nous sommes les sénateurs. Vous faites deux mandats et vous avez une retraite pleine.
Ouais.
Enfin, alors, ils n'en profitent pas longtemps.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que...
deux mandats, ça fait 18 ans. Vous devenez...
Oui, ça fait 18 ans.
À 70 ans, ouais. Oui, enfin...
Oh, bah, regardez Mélenchon. Non,
mais oui, Mélenchon...
Il était fort jeune, maintenant...
Masseret, il l'a été à 32 ans, je crois.
Alors, Gérard Mondru, qui a donc écrit ce livre vraiment extraordinaire, parce que c'est une mode aujourd'hui de vouloir conclure les livres tristes par des notes d'optimisme. Bon, pourquoi on fait ça? Bon, enfin bon. Et donc,
les lecteurs aiment ça.
Ben, ils aiment ça. Oui, voilà. C'est le côté, c'est ce dont on parlait. Enfin, Jean Mardiran disait ça. Il est clair. Vous n'y changerez rien, Jean Mardiran. Et vous-même non plus, Camille Carigali, que les lecteurs auront toujours une répétition une sensation de répétition. Et il y a un côté répétitif et anxiogène dans le fait de parler de l'insécurité depuis 20 ans, comme vous le faites. Ça, c'est ce qui est souligné, c'est la loi du genre. Alors lui, il se dit, je vais faire une note optimiste. Et il cite Lincoln. On peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Bah moi je dis que si. On peut évidemment tromper le. Alors voilà, comment ça se résoudra? Bah ça se résoudra pas. En 2005, la génération du baby boom va se retrouver à la retraite, donc il va y avoir un fantastique.
Vous avez dépassé le temps qui nous est imparti. Ne partez pas tout de suite. Je voudrais que vous puissiez saluer les auditeurs.
Mais c'est vraiment un livre à lire.
Après la coupure technique.
C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria. Diffusé en direct mercredi 8 novembre 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 9 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, alors nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, mais avant je voudrais que chacun des directeurs de journal... Les directeurs de journal, chacun est directeur d'un seul journal, sauf bien sûr Adeline qui a au moins trois titres dans sa poche, nous parle très brièvement de son titre. Donc Jean Mazirand, c'est présent.
Oui, présent.
Quotidien,
oui, quotidien, 5 jours par semaine. 5 rue d'Amboise, avec un D apostrophe, 5 rue d'Amboise, Paris 2e. Alors faites l'essai d'un quotidien seul de son espèce, faites l'essai. En envoyant votre adresse et 100 francs, vous le recevez 4 semaines. Et voilà, essayez. Et vous pouvez aussi le trouver dans des kiosques, pas dans tous les kiosques, parce qu'il y en a trop. Mais certainement dans les maisons centrales de la presse, dans les villes où vous êtes, vous pouvez l'acheter au numéro, mais vous le recevez dans la mesure où la poste vous le transmet, mais quelquefois avec retard, on n'y peut rien. 100 francs, 4 semaines, 5 rues d'Amboise, d'apostrophe, Paris 2e.
Il est bien, hein? Quand il fait la... Comment on appelait ça? Faire la...
Promotion.
Non, il y avait un autre mot qui était plus
la joli. La réclame, on disait.
Non, c'est pas la réclame, c'était la... Je sais plus, j'ai oublié un nom de forme.
Un mot de forme. Alors, la proclame, mais le mot n'existe pas dans cette forme.
Alors, moi, j'allais dire comme Jean que si on veut un spécimen de Rivarol ou d'un autre revue qui est un hebdomadaire qui est en vente, qu'on trouve en principe le vendredi dans les kiosques et que les abonnés reçoivent également le vendredi quand la poste daigne faire son travail. Sinon, on peut nous en demander un exemplaire gratuit ainsi que de notre revue mensuelle écrite Paris au 1 rue d'Hauteville avec une avec apostrophe des Hauteville ou au 01, on peut téléphoner au 01 53 34 97 97 ou tout simplement rivarol.com pour ceux qui ont l'internet.
Merci Camille. Emmanuel Ratier, c'est Faits et Documents, quinzomadaire. C'est ça qu'on dit maintenant. Oui. Moi, j'ai décidé de dire ça.
Oui, ça sort deux fois par mois. Donc, Faits et Documents, boîte postale 254 75 424 Paris CEDEX 09 et j'enverrai un numéro à tous les gens qui m'écriront.
Monsieur Adeline.
Ben, vous avez le choix entre une revue mensuelle d'actualité de doctrine royaliste qui s'appelle Fidelis, qui est sortie cette année et à laquelle je vous encourage à vous abonner naturellement. Le numéro de novembre est sorti avec différents collaborateurs, dont Vladimir Volkov et d'autres. Et puis un hebdomadaire qui s'appelle Légitimiste. Et, l'un et l'autre sont, on peut s'y abonner au 22 rue Didot, 75014 Paris, 22 rue Didot dans le 14e.
Très bien, merci madame.
Un auditeur demande à M. Aldine s'il peut répéter le titre du livre dont il a parlé.
Alors, oui, c'est un livre vraiment important. Gérard Maudru. DRUX. Je pense pas qu'on dise Maudrux, parce que d'ailleurs, je me suis retrouvé dans une émission avec lui et c'était Gérard Maudru. Retraite, le mensonge permanent aux éditions Les Belles Lettres. 110 francs, c'est un livre tout à fait remarquable que je conseille.
Merci, merci à tous. Et dans une minute, Georgine Malirakis. Avant de donner la parole, de commencer notre entretien avec Georgine Malirakis, j'ai, comme d'habitude, comme toutes les semaines, Alexandre Chabanis au téléphone. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir, Serge Becquet, bonsoir les auditeurs, bonsoir Malirakis.
On fait le point sur l'opération État généraux de l'immigration.
Oui.
Est-ce que dans l'actualité, il y a quelque chose qui vous motive encore plus?
Alors, il y a deux faits. Je vous ai envoyé un petit fax tout à l'heure qui est intéressant, puisque vous savez que je suis membre du Conseil national souverainiste et que ce n'est pas l'Europe actuelle qui a créé la notion de charte européenne, mais c'est moi-même, dans un texte que je vous ai envoyé, d'ailleurs qui a été publié dans Le Monde, dans lequel je disais une Europe dont les composantes seront déterminées, et je vais vous dire pourquoi, en fonction de leurs identités, reposeront sur la libre adhésion des nations à une charte la constatant. Ceci a été publié par Le Monde, a été publié par Figaro et beaucoup d'autres journaux. Donc la notion de charte européenne, c'est une idée de droite, c'est une idée au sens national et au sens européen de droite. Donc j'irai à Nice avec nos amis souverainistes, puisque je suis membre du Conseil national souverainiste, et je produirai moi-même, avec d'autres amis de, souverainistes, une charte européenne des droits fondamentaux des peuples européens et de l'homme européen. Ça sera la réponse aux monétaristes et à la charte monétariste qui nous est imposée par M. Cohen-Bendit, qui à cette époque-là allait recevoir ses ordres de la Stalie. Ça, c'est une parenthèse. Deuxième parenthèse, je crois qu'on ne peut pas parler des états généraux sans oublier la vache folle, vous en avez parlé, mais je vais vous donner une information qui est quand même de fond. C'est que je crois que la vache folle, comme le sida, comme l'histoire du sida et la propagation par le sang contaminé du sida des innocents, c'est la même volonté politique qui a créé ce système. C'est-à-dire que les socialistes ont dénaturé pendant 60 ans l'éducation des jeunes Français, ils ont dévoyé la jeunesse française. Et ils ont assujetti les jeunes Français à des formes intellectuelles qui ont emmené ces jeunes Français à perdre toute notion d'instinct de conservation et toute intuition de conservation. Ça fait 60 ans que dure cette destruction de la mémoire française dans son fondement même éducatif. Suprême manipulation faite par les socialistes, quand ils ont eu détruit l'intuition et l'instinct des Français à même se reproduire, ils ont créé un parti écologiste, qui bien entendu était de gauche, et qui lui avait pour mission de dire ce qu'allait être l'écologie humaine ou l'écologie naturelle. Et bien là, nous assistons en ce moment à ce qu'est le fond de l'éducation socialiste, comme dans l'affaire du sang contaminé, la responsabilité de l'international socialiste et des socialistes est entière. Et on ne peut pas parler des états généraux si on ne comprend pas, et si certains naïfs ne comprennent pas, ou certains politiciens naïfs qui font plutôt une exégèse du 19e siècle quand ils parlent du sang contaminé ou d'autre chose, ils croient encore pouvoir modifier la donne socialiste par le détail ou par l'élection sur des sujets comme celui-ci. Nous n'avons aucune chance, et aucune chance de modifier par une élection ponctuelle. Pourquoi ? Parce qu'on voit par exemple M. Bonnet, ancien ministre de M. Giscard d'Estaing, rallier la gauche et faire une allégeance à M. Jospin. Eh bien, ceci, c'était un homme de droite et d'une droite bien pensante, M. Bonnet. Eh bien, quand on est encore d'une manière utopique à croire que certains phénomènes ponctuels vont pouvoir nous emmener à avoir un sursaut national, et moi je suis pas d'accord avec toi quand tu dis ce peuple il va respirer, il faut lui donner les moyens de respirer, mais il faut pas lui donner du désespoir à longueur de journée, à longueur de colonne. Alors moi je mets quand même en garde les Français sur cette hégémonie socialiste et qu'on ne pourra abattre. On l'appelle, en fait, cette hégémonie socialiste, à l'heure actuelle, elle est appelée mondialiste. C'est-à-dire que les socialistes, l'international socialiste, pour se camoufler, a trouvé la notion de mondialisme pour camoufler un dessein qui dure depuis 70 ans. Et je dis que seule une action globale peut arrêter cette machine socialiste destinée à décerveler le peuple français, à le détruire. Et pour ceux qui ne comprennent pas, je vais quand même faire une lecture d'actualité. À ceux qui font que toute question devient un problème, parce que beaucoup de gens font, chaque fois qu'on leur pose une question, ils répondent par un problème. Et pour être plus précis, je vais vous lire un extrait du programme commun de la gauche.
Oh là, mais pas une heure, hein, parce
si,
que...
Non, là, pour 10 minutes, 10
oh,
minutes.
Non, ah, oui,
non, non, mais attends,
oui.
C'est important,
oui,
parce qu'il faut savoir où on va. Et moi, je vais te dire où on va.
D'accord.
Voilà. Et je dis que je vais te lire un extrait du programme commun de la gauche d'aujourd'hui.
Okay.
C'est-à-dire tiré de l'humanité d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, on va comprendre que l'action des États généraux, c'est la seule action qui, à l'heure actuelle, peut nous sortir de ce programme commun qui dure depuis 70 ans. Et à la page, dans l'humanité, donc d'aujourd'hui, première page, gauche plurielle, acte 2. Parce que si on se rappelle ce qu'était la gauche unie, l'acte 1, c'était le programme commun. Il est en train de se mettre en place un deuxième programme commun. Et dans ce deuxième programme commun, qui est publié en entier, ils n'ont pas de pudeur, ils ont raison d'ailleurs, ils ont raison de ne pas s'en priver, il est dit en démocratisant la vie politique locale. Et ils font appel dans cette partie-là, ils disent ceci, par la possibilité de référendum d'initiative régionale ou départementale. Et bien entendu, ils évacuent dans les donnes de leur nouveau programme commun, le programme de fond, le un référendum de fond d'initiative populaire sur les grands problèmes de société. Voilà comment on va être mangé. Et ensuite, dans ce même, en démocratisant la vie politique locale, par l'instauration du droit de vote et d'éligibilité des étrangers aux élections municipales dans les mêmes conditions que les ressortissants européens. Eh bien, messieurs, je vous le dis, et c'est pour ça que ça vaut plus de 5 minutes quand même, parce que c'est la méthode dans laquelle on va être mangé, Serge. Et cette méthode-là, je suis le seul, et nous sommes les seuls maintenant, nous sommes plus de 3000, à dire, face à ce péril qui se poursuit depuis 70 ans, mais qui est mis au goût du jour à longueur d'année. Il ne s'agit pas de pleurer, il ne s'agit pas de pleurer sur ce qu'on a été ou ce qu'on n'a pas pu être. Il s'agit de se nier, ou alors nous disparaîtrons. Et je dis que les prochaines élections n'apporteront rien que nous ne connaissons déjà, hormis si on crée un programme unitaire de démocratie directe pour changer la donne. Et si contrant le PSC, qui a bien compris, qui ne veut pas d'un référendum d'initiative populaire sur les grands sujets de société, c'est dans le programme commun de la gauche. Voilà ce dont ils ont peur. Quel que soit leur parti, nous disons aux militants, quel que soit leur parti, ils doivent leur obliger leurs responsables, leurs chefs à participer à ces états généraux. Alors nous sortons des nouveaux documents avec le programme. Nous allons éditer une affiche, allez, nous avons l'imprimeur à 30 000 exemplaires, qui va être « États généraux, le peuple français impose la loi du retour ». Et puis, je lance encore un appel. Je dis aux gens, il nous faut un local sur Paris, car à un moment donné, je ne pourrai pas supporter la charge, elle est déjà lourde, matérielle et physique qui se joue autour de mon domicile. Donc je dis aux gens, allez un peu plus loin dans la démarche et engagez-vous. Et je dis que nous avons une deuxième initiative que nous avons prévue avec des associations, c'est l'achat d'une page dans un grand quotidien qui pourrait être le détonateur de notre action. Alors, tout ceci, Serge, pour te dire que quand nous écrivions pour un groupe d'étudiants en 1979 qu'il fallait créer une charte d'identité avant que nous soyons mangés, nous écrivions il faut créer une charte européenne des identités des peuples européens. Aujourd'hui, qui a repris ce thème? L'ennemi. Aujourd'hui, le PC, le PS et ses alliés, il faut lire l'humanité d'aujourd'hui, il faut le lire, parce que c'est la sauce à laquelle vous allez être mangés. Le programme est à l'intérieur, nous avons le contre-programme, nous unir ou disparaître. Voilà. Alors, je vais te laisser quand même mes coordonnées.
Oui, on va les rappeler
à la fin.
Non, on va les rappeler tout de suite. Donc, c'est l'adresse et le numéro de téléphone.
Fonds de Libération Nationale, ce qui s'impose de plus en plus. 34 Grande Rue, 95 550. 34 Grande Rue, 95 550, Bessancourt. Téléphone fax 01 30 40 03 71. Téléphone fax 01 30 40 03 71. En te disant, Serge, que ce programme commun, nous avons donné la réponse avant à ce programme commun, pas après.
Merci Alex, à bientôt.
Au revoir.
Voilà, je persiste absolument à dire que la solution est là, et je suis un petit peu désolé de voir que n'est pas mieux compris par nos amis, ils sont partis maintenant, je regrette de le dire en leur absence, par nos amis de la droite nationale, de la presse de la droite nationale. Notre auditeur nous dit pourquoi Beckett est-il le seul dans son libre journal à parler de l'action de Chabanis, c'est aussi une question que je me pose. Amitié à tous, de la part d'un chauffeur d'autobus, on est de plus en plus nombreux à vous écouter. Voilà. Maintenant, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Je sais que vous serez content parce qu'on a eu beaucoup d'appels pour nous demander ce qu'il en était du jugement, de la condamnation qui la frappe. C'est Catherine Maigret. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, on tient le choc.
Vous avez encaissé?
Oui.
Alors, donc, cette condamnation, vous voulez nous rappeler ce qu'elle est?
Alors, cette condamnation, tout le monde, je pense, sait maintenant que j'étais poursuivie par une association de famille nationale des familles. Oh, écoutez, je ne sais plus, parce que bon, c'est l'Union des nationales des familles qui m'a poursuivie entre autres, et puis toutes ces parties civiles habituelles, SOS Raciste, la LICRA, et bon, tous ceux qui jugent qu'il y a eu discrimination raciale. Et
vous avez été poursuivi parce que vous aviez...
Pour l'instauration d'une prime de naissance aux parents français, dont l'un des deux parents est ressortissant européen.
D'accord. Ok. Et notamment, vous avez été poursuivi par M. Gobert, qui lui,
ah oui,
il faut le rappeler, avait voté lorsqu'il était conseiller municipal à Courbevoie.
Exactement.
Avait voté la même disposition.
Il a voté la même disposition en 1985.
Voilà.
Et c'est Charles Després, l'ancien maire de Courbevoie, qui est même venu nous le raconter à la barre. Et M. Gobert, donc, est aujourd'hui président de la LICRA. À l'époque, il était conseiller municipal. Et vous voyez comment on retourne sa veste. Et aujourd'hui, il est parti civil contre moi.
Oui, enfin, j'en ris, mais oui, parce que c'est la seule chose qui nous reste à faire, il faut en rire. Alors, cette condamnation, elle est, si j'ai bien compris, de 3 mois de prison avec sursis.
Oui.
De 100 000 francs d'amende.
Oui.
Et de 2 ans d'inéligibilité.
Oui, je crois qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose à l'addition, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformations sur les radios. Certains disaient qu'avec l'inéligibilité, d'autres que la prison et d'autres que l'amende. Alors en fait, on a la totale, c'est-à-dire on a le maximum. Ils ont suivi la procureuse, vous savez, la mère Tapdur dont je vous ai parlé. Donc 3 mois de prison avec sursis pour moi-même, Hubert Fayard et moi-même. Nous avons eu la même chose, le même traitement. 2 ans d'inéligibilité, 200 000 francs d'amende, Hubert Fayard et moi-même, plus 300 000 francs de dommages et intérêts et d'insertion dans les journaux, parce qu'il est obligatoire, à peu près, disons, dans une dizaine de journaux, à 30 000 francs l'insertion minimum.
C'est fou.
Et nous avons aussi 50 000 francs à verser à cette union nationale des familles.
C'est incroyable.
Donc, en tout, c'est 3 mois de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité et 500 000 francs de dommages et intérêts.
Oh là là, c'est effrayant.
C'est effrayant.
Bon, bien entendu, vous allez faire appel.
Nous faisons appel et bien entendu, je serai candidate et j'appelle tous ceux qui nous écoutent. J'en profite parce que j'ai vraiment besoin du soutien de tout le monde pour lutter contre cette injustice. Je les appelle à me rejoindre au MNR pour lutter contre ce totalitarisme, parce que c'est un totalitarisme, si vous voulez, c'est la porte ouverte maintenant à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous touche, nous, mais ça veut dire quoi, ce procès? C'est très très grave ce qui se passe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté, qu'il n'y a plus de démocratie, puisque ce sont les juges qui décident à la place des élus. Tous les maires sont menacés, et au travers des maires, le citoyen français. Les maires, maintenant, sont menacés d'être condamnés s'ils prennent des mesures politiquement incorrectes avec des juges qui essayent d'écarter des élus qui ne leur plaisent pas par un système d'inéligibilité. C'est pour ça que je demande vraiment, je fais un appel au soutien de tous ceux qui nous écoutent pour venir, il faut unir nos forces, il faut lutter contre ça, on ne peut pas laisser faire ça, parce que sinon on est foutu. J'ai entendu d'ailleurs mon prédécesseur qui disait à peu près le même genre de choses.
Oui.
Je crois qu'il est très important maintenant d'unir nos forces pour réagir contre ce totalitarisme qui s'installe dans notre pays.
Merci Catherine, bon courage.
Oui, j'ai oublié de vous dire que c'est d'autant plus grave que je suis condamnée simplement pour avoir voulu aider les familles françaises et je suis condamnée à des très très lourdes peines. En même temps, les responsables politiques qui détournent l'argent public ne sont pas punis, comme Chirac, Xavier Tiberi et tant d'autres. Et j'ajouterai aussi que c'est d'autant plus injuste que ces poursuites n'étaient pas recevables pour plusieurs raisons en droit, car il y avait prescription. Mais moi, je n'ai pas eu droit au vice de forme. On est passé outre.
Je signale aux auditeurs que vous serez le mardi 14 novembre à 20h, mardi prochain, donc au Novotel Vaugirard, 257 rue de Vaugirard, pour un dîner-débat de soutien à la préférence nationale, pour le cas où nos ennemis auraient cru que ça vous avait coupé les jambes, cette affaire. Donc, 14 novembre 2020, Novotel Vaugirard, dîner-débat exceptionnel de soutien à la préférence nationale.
Mm-hmm.
Et pour s'inscrire, il faut donc téléphoner au 01 56 56 64 34.
Oui, et j'ai aussi oublié de vous dire, pour continuer dans la justice profonde de ce procès, que pour les auditeurs qui ne le savent pas, plusieurs mères, pendant au moins 10 ans, ont donné cette prime de naissance sans même être poursuivies. Moi, je ne l'ai jamais donnée. Je suis poursuivie et condamnée pour ne l'avoir jamais donnée, en plus. Des maires comme Chirac, comme Sarkozy, comme le maire de Saint-Maur, et comme l'ancien maire de Courbevoie, Charles Després, qui a eu le courage de venir témoigner à mon procès.
Merci, Catherine.
Merci
bon
à vous.
Courage.
Au revoir.
Au revoir. Un commentaire, Jean-Gilles ?
Bah, j'avoue que je ne connais pas les détails du dossier, mais moi, il y a une chose qui me frappe dans la législation qui se prétend antiraciste et qui vise la discrimination, c'est qu'elle introduit quand même des choses auxquelles on devrait bien réfléchir. Par exemple, vous savez qu'il y a un nouveau principe, c'est la discrimination dans le travail, qui permettra à quelqu'un de dire « j'ai été discriminé dans mon emploi » et c'est à l'employeur de prouver qu'il est innocent. Bon, ça c'est une chose totalement inouïe en droit. Je suis pas un juriste, mais je me sens capable d'argumenter là-dessus. C'est une novation assez extraordinaire. Il y a une autre novation dans la législation sur la discrimination. Bon, il est évident que quand on discrimine eu égard à la nationalité, c'est ce que l'État fait tous les jours. Le fait même de distribuer une carte nationale d'identité est discriminant entre celui sur lequel qui a un papier où il y a marqué nationalité française et celui qui ne dispose pas de cela. Or, ce n'est pas du racisme, puisque comme chacun sait, la nationalité française n'est pas attribuée en fonction de critères raciaux. Alors, interdire à un maire de faire ce que l'administration fait tous les jours, c'est un tout petit peu étrange. Mais il y a un troisième point qui est beaucoup plus étonnant, c'est que on est entré dans une notion de juger sur l'intention. Et les précédents que cite Catherine Maigret ne sont pas invocables par elle dans le système, n'est-ce pas, de cette législation, puisque on va dire le même acte commis, mettons, par Serge de Bekech, qui a certaines intentions, est différent du même acte commis par Gentil Meliarakis, dont les intentions sont notoirement différentes. Et ça aussi, c'est...
C'est pas la prochaine intention.
Je crois, oui, ça peut s'appeler comme ça, sans doute. Donc, il y a un certain nombre de novations. Bon, en France, on n'est pas encore arrivé à l'absurdité états-unienne de la discrimination positive. C'est-à-dire d'obliger à établir une discrimination en faveur des discriminés. Enfin, des victimes. Enfin, voilà. Donc, on n'en est pas encore là, mais évidemment, ça va venir. Et je dirais même que la France a plusieurs longueurs d'avance. Alors, ça me donne l'occasion pour dire je me félicite de l'éventuel coup d'arrêt que représenterait ce que j'espère, n'est-ce pas, l'élection de Bush. Parce que tout ce délire est quand même lié à une certaine politique qui n'est pas exclusivement française et dans laquelle la France joue un rôle extraordinaire, selon moi, puisque, bon, si on prend ces quatre inventions... n'est-ce pas, le juger en fonction de l'intention, interdire aux citoyens de faire ce que, à un maire de faire ce que l'État fait tous les jours, d'autre part le jugement qui fait qu'on est le système qui fait qu'on est obligé en matière de discrimination de prouver qu'on est innocent. Il y a trois inventions françaises contre une invention américaine qui est la discrimination positive. Voilà, je voudrais que peut-être qu'on réfléchisse un peu à cette chose-là.
Alors, on va réfléchir ensemble, un petit peu de musique et on commence.
Voilà.
Voilà. Alors, Jean-Gilles Maliarakis, je suis un peu embêté parce que on fait semblant de se voussoyer, c'est de rigueur
c'est ridicule,
à la radio. Mais ça fait quand même très très longtemps qu'on
se C'est ridicule, alors, ouais, de se voussoyer quand on se tutoie.
Si les auditeurs le permettent, et comme ils pourront pas nous faire savoir qu'ils ne nous le permettent pas, et ben on va se donner ce droit, on va se tutoyer.
En parce que, liberté, oui.
D'autant que la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir à cette émission, c'est que j'ai l'impression, à travers les messages que je reçois, moi, qui me concernent, ouais, que la situation qu'on occupe devant un micro fait qu'en réalité, les auditeurs ne nous connaissent absolument pas.
Ah, c'est pas le même homme qui interroge, ouais, et qui reçoit dans son émission, évidemment.
Et alors, c'est un peu gênant. Alors, dans ton cas, par exemple, j'ai toujours été frappé par la différence non pas de personnage, parce que le personnage est le même, mais la différence d'impression qu'on peut avoir quand on t'entend au micro et quand on t'entend dans la vie.
Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion.
C'est pas des conclusions, je trouve
que c'est... Le meilleur des deux, c'est peut-être...
Non,
je peut-être pas, mais...
Oui, c'est ça, voilà. C'est un meilleur.
En tout cas, c'est un effet très, très agréable de venir comme invité. Et un très gros boulot, j'en profite pour le dire aussi pour moi, parce que vendredi, c'est un très très gros boulot d'inviter, d'organiser des émissions. Si tu avais pu, parce que je sais que tu avais des empêchements majeurs hier soir, si tu avais pu entendre les divers responsables d'émissions qui étant là, ont parlé de leur projet pour les 130 ans à venir de la radio, parce qu'on restera au moins autant, aussi longtemps boulevard Murat qu'on est resté en Algérie, quoi, à peu près. Donc pour les 130 ans à venir de la radio, il y aurait d'autres conclusions qu'on pourrait tirer. Par exemple, je te dis franchement que je me suis senti en minorité avec Garello, parce que il y a une chose, pour continuer sur les mésaventures de Madame Maigret, c'est quand même qu'il faudrait qu'on cesse de se voiler la face. Je suis persuadé que tous ceux qui sont autour de Radio Courtoisie, n'est-ce pas, mais pensent un peu comme moi. Mais c'est plus dur quand on est calé comme ça dans le devoir d'État de faire semblant de prendre les Français pour le peuple le plus intelligent de la Terre. C'est ce que tu disais en première partie. Est-ce que on ne pourrait pas user du petit degré de liberté pour dire que dans l'entreprise des crétinisations universelles, n'est-ce pas, que dénonçait Salvador Dalí, eh bien, la France occupe une part...
Le discours apolitique.
Oui, je ne sais pas si c'est...
C'est l'admirable discours apolitique.
Eh bien, je pense que la France occupe une part de marché enviable.
Ouais.
Et c'est tout à fait dommage, parce que les dons de Dieu sans s'en repentance, on peut faire des tas de commentaires pieux, là où le péché abonde, la grâce surabonde, voilà, n'est-ce pas, la France peut se ressaisir, et je pense qu'elle elle a des fulgurances devant elle, mais pour l'instant, on n'en est pas là. J'éprouve le sentiment que de dire tout ce que la France souverainement va entreprendre, moi j'ai extrêmement peur que la France souverainement s'injecte un peu plus de drogue létale quant à son identité, quant à sa part de culture, quant à son économie. Bien entendu, aussi quant à sa souveraineté future. Ça, c'est...
Oui, alors c'est ça. Voilà, là on est rentré tout de suite dans le cœur de ce que je voulais faire, parce que je l'ai dit il y a longtemps qu'on se connaît. Je crois qu'on a des analyses parallèles ou proches sur beaucoup de un regard, pas parler d'analyse dans ce qu'on
pense. On n'est pas à gauche, oui.
On n'est pas vraiment à gauche, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, m'interroge tout le temps. C'est le chemin intellectuel par lequel tu es arrivé aux positions que tu occupes aujourd'hui.
Je n'occupe aucune position, Serge. Je suis complètement libre.
Oui, mais j'entends bien. Mais
ouais.
Parce que normalement, moi j'aurais pensé que la démarche naturelle, bah bien sûr, comme c'est la démarche que moi j'ai suivie, c'est pour moi la démarche naturelle consiste à, au contraire, se durcir dans le combat identitaire fermé, je dirais, de plus en plus fermé. Et sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan même culturel, etc. Et toi, on a vraiment l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que, par exemple, il faut faire attention aux mots, bien sûr, mais j'ai plutôt l'impression que sur le plan économique, tu es un libéral.
Oh ben, c'est parce que, oui, c'est d'abord, si j'adhère à un point de vue, ça ne peut être qu'un point de vue ultra. Je suis donc...
Ultra-libéral.
Non, attention, voilà, je veux bien accepter cette affreuse casquette. Honnêtement, là, je mets une cible, je dessine la cible pour qu'on me tire dessus, mais en réalité, je serais vachement content que les défenseurs de l'identité française soient capables de faire une campagne victorieuse. Ce que je crois, c'est que pour gagner, ils peuvent pas compter sur l'État français. Si on veut être abandonné, on peut en effet faire confiance aux hommes de l'État français, aux hommes de l'État en général. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'on cesse de dire, par exemple, il faut à tout prix protéger nos frontières pour protéger notre protection sociale, qui précisément ne nous protège pas. Yves-Marie Edeline vient de découvrir, à juste titre, un problème qui m'a amené peut-être à cette position que pour choquer, on va appeler ultra-libéral, enfin, c'est-à-dire en faveur du libre-échange, c'est qu'en effet, le libre-échange obligera la France à corriger un certain nombre de choses dont elle crève. Et quand on parle des retraites, il faut bien se rendre compte que le système de retraite auquel j'ai consacré deux petites plaquettes et auquel Gérard Modru vient d'apporter alors une avancée extraordinaire, parce que là, c'est la mèche qui à mon avis peut mettre beaucoup plus que ce que feront les politiques, peut faire avancer le dossier de façon radicale. Cette affaire des retraites, elle porte terriblement atteinte à toute notre société. Hein, il faut bien comprendre qu'actuellement, par exemple, il y a eu une étude très intéressante dans les Échos aujourd'hui, dans les pages qui sont les plus intéressantes, c'est-à-dire les dernières, sur ce que coûte l'épargne aux Français. Les Français épargnent, mais dans des systèmes complètement bloqués, en plus de la retraite, entre 14 et 16% de la richesse nationale créée, alors que les États-Unis sont arrivés à un niveau tel que cette année, ça ne sera pas réitéré, l'épargne nette c'est zéro. C'est-à-dire ils peuvent dépenser ce qu'ils gagnent.
Oui, mais quand on parle de ça, quand les radios et télévisions en parlent, ou les émissions spécialisées, les gens disent, vous voyez, ça va pas si bien que ça aux États-Unis, l'épargne zéro.
Non, ça va extrêmement bien aux États-Unis, ça va trop bien aux États-Unis. Il faut aussi bien se rendre compte que la conjoncture, indépendamment de savoir qui sera président, d'abord le vrai maître du pouvoir économique aux États-Unis, c'est M. Alan Greenspan, hein, qui n'était pas soumis.
Pour lequel personne n'a voté.
Pour lequel je vote, pour lequel les marchés financiers votent, pour lequel les gens qui lisent ces discours votent en disant, mais on aimerait bien en France avoir des gens qui disent des choses aussi simples, aussi. Voilà. Bon. Ce que dit Greenspan, c'est qu'actuellement, ça va trop bien, le chômage est trop bas, le taux de croissance est trop élevé, enfin, on craint la surchauffe. Bon, donc, c'est... Alors, quand on dit la société américaine, il y a des millions de pauvres. Comment on calcule un pauvre? Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? Un pauvre sot peut être détenteur d'un revenu extrêmement élevé. Donc, le mot pauvre, c'est quelqu'un qui est dont le revenu est au-dessous de la moitié du revenu médian. C'est-à-dire que dans une société où, mettons, le revenu médian est, je dis n'importe quoi, 200 000 francs, on est pauvre à 99 000 francs. Dans une société où le revenu médian est à 40 000 francs par an, mettons, eh bien, on n'est pas pauvre à 20 000 francs. Voilà. Ouais, est-ce que je me suis fait bien comprendre?
Oui, c'est donc, dire enfin, même moi j'ai compris, pauvres, donc ça doit être à la portée
de... Tu as compris, et tout le monde a compris. Parler d'un pauvre aux États-Unis, en oubliant aussi que, par exemple, les pauvres Mexicains, sauf erreur, font tout ce qu'ils peuvent pour franchir le Rio Grande pour devenir des pauvres Américains.
Un pauvre Mexicain, c'est un mort américain, à peu près, oui, en voilà, termes bon, de pouvoir d'achat.
Bon, par ailleurs, les Américains sont capables de produire des nuisances qu'il s'agit de dénoncer. Quand, ces nuisances, nous les appelons aussi.
Je ne voudrais pas que tu m'entraînes sur le terrain de du débat, enfin, il n'y a pas de débat, sur le terrain économique, parce que je voudrais revenir au point de départ. Moi, mon interrogation, c'est celle-là. C'est comment un garçon que j'ai connu à l'époque de notre folle jeunesse comme étant un dirigeant nationaliste,
militant nationaliste,
oui, même dirigeant, on peut dire. T'as créé des mouvements. Tu as fait du mouvement. Bon, qui était quelqu'un de employons le mot, dur. Un dirigeant dur, de la droite dure. Non,
si tu veux, oui, bien sûr. Mais, et alors, tu penses alors, que je suis pas dur, là?
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est la démarche. Ce que je voudrais arriver à comprendre, c'est la démarche intellectuelle qui fait que il y a un moment où on a l'impression que tu te rends à des évidences. Tu dis, c'est comme ça.
Mais il n'y a rien de plus dur dans les révolutions du XXe siècle. On fait difficilement plus dur que Lénine. Lénine dit, les faits sont sacrés, n'est-ce pas? Les faits sont têtus. Bon, quand on est en face d'une réalité, est-ce que être dur, c'est nier cette réalité ou de la prendre en compte au nom d'idéaux qui, eux, sont permanents? Moi, j'ai une très, très grande ambition pour la France et pour l'Europe. Et j'ai un très grand respect pour l'esprit européen. Est-ce que l'esprit européen, c'est de dire, c'est le protectionnisme à tout craint? Pas du tout. L'Europe... ça a peut-être été même son drame. L'Europe, elle va au-delà de l'Europe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de frontières de l'Europe. Et la France, c'est la même chose. C'est un morceau de l'Europe. N'entrons pas dans ce débat. Mais bon, est-ce que le génie de la France, c'est de se refermer sur Romorantin? Pas du tout. C'est charmant, Romorantin. Mais le génie de la France, c'est justement d'avoir été, par exemple, à l'époque où les Jacobins, là, dont on a oublié, qui sont une nuisance, les radicaux socialistes de 1905, à l'époque où on chassait les écoles congréganistes en France, 60% des missionnaires dans le monde étaient encore des Français. Et par exemple, la langue française dans le monde, elle était enseignée par qui? Ben, elle était enseignée par des pères jésuites qui n'avaient pas le droit d'enseigner en France. Donc, il faut peut-être se rendre des pères jésuites français. Il y avait même des Belges francophones.
Mais là, jusqu'à présent, on est absolument d'accord.
On est en accord. Donc, le génie français, c'est peut-être de sortir de l'hexagone.
C'est peut-être de transporter la France ailleurs, mais c'est pas forcément de rapporter l'ailleurs en France. Or, c'est bien ça qu'on voit.
Oui, mais rapporter l'ailleurs... Oui, je vois bien ce que tu
veux dire. Je parle pas seulement de l'immigration.
Ce qui me terrifie, c'est de penser que...
Je parle des mœurs, par exemple. L'immigration, c'est un fait. Bon, c'est comme ça. On peut le résoudre, à mon avis, d'une façon assez simple. Mais c'est pas moi qui ai inventé la solution. Et en plus, elle est pas nouvelle. Donc, même pas la peine d'en parler. Ce que je veux dire, c'est que on est en train, par exemple en France, d'importer... une chose américaine qui marche peut-être très bien aux États-Unis, je ne sais rien, je ne suis pas allé assez souvent pour le savoir.
C'est le communautarisme.
C'est le communautarisme.
Mais je suis pas du tout favorable au communautarisme.
Oui, mais c'est un peu
le communautarisme. Alors, puisque tu emploies des mots libérales, le mot libéral, voilà une chose que quelqu'un qui a lu Hayek ne peut pas accepter, le communautarisme, c'est de dire en rang par deux derrière, permettons, voilà, on vient de l'Aveyron, on habite Paris, et donc on est tous, on décide, sous prétexte qu'on exerce des métiers analogues de extrêmement utiles, heureusement qu'il y a encore des bistrots aveyronnais. Est-ce qu'on imaginerait qu'on crée une communauté aveyronnaise qui ne se marie qu'entre aveyronnais à Paris, et qui, en rang par deux derrière, l'aumônier des aveyronnais déciderait de dire le gros mot qu'a prononcé le chef des Aveyronnais à Paris? Ben non, c'est ça le communautarisme.
Oui, mais c'est bien ce qui est en train de se faire.
Il faut combattre ça, bien entendu. Et alors, tu penses que les défenseurs des gens comme Jean Garello ou à certains égards moins. Bon, par exemple, tu crois qu'il y a il n'y a que des maniaques de l'esprit de système qui peuvent
non, ce que je crois, ça, ou ce des Français qui veulent la, se suicider. Ce que je crois, c'est que c'est la sanction obligatoire de l'européanisation ou de la mondialisation, l'européanisation n'étant qu'un acte
mais pas
de,
du tout.
De la mondialisation. Parce
c'est la mondialisation de gauche, c'est l'Amérique de gauche qui produit ça, c'est l'Amérique d'Al Gore et de Clinton. Alors on va savoir, là il y a une photo, là on a deux jours d'interrogation, mais de toute façon, quel que soit le vainqueur, on sait bien qu'aux États-Unis, il y a 270 millions d'Américains, dont une partie charrie des idées extrêmement fausses. Mais on ne doit pas se tromper aussi sur un point, c'est que ces idées fausses, ils n'en sont souvent pas du tout les inventeurs. Et par exemple, tous les réflexes du politiquement correct, et je dirais même tous les réflexes du stalinisme, ben en définitive, ils viennent d'une matrice qui est la Révolution française. Mmh. Hein, la Révolution française n'est pas autant la fille qu'on croit de la Révolution américaine, c'est au contraire la gauche mondiale qui est la fille de cette horreur qui est la Révolution française. Donc soignons la Révolution française. Alors aujourd'hui, on dit est-ce que la Révolution française est individualiste ou communautariste? Ben, elle produit les deux. Ça, c'est clair. Un adepte de la doctrine sociale de l'Église dira la Révolution française, c'est l'exaltation de l'individualisme. Oui et non. Oui et non. C'est l'idolâtrie officiellement de l'individu, mais c'est la négation de l'individu.
Enfin, c'est la société atomisée, en tout cas. C'est chaque individu n'est
qu'un théorie, atome. En théorie, oui, en théorie, mais très 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 vite, le piège se referme sur le soi-disant individualisme jacobin. Le jacobinisme, c'est quand même pas l'exaltation de l'individu. Alors, aujourd'hui, donc tu parles du communautarisme et tu la lis au mondialisme, mais bon, tout ça c'est des ismes. Disons que si on croit au dialogue des cultures, à tout ce que disent les braves types qui croient à un état universel, etc. Évidemment qu'on peut pas faire le communautarisme chez soi et l'Europe sans rivage d'un autre côté. Il va bien falloir choisir. On peut pas dire je souhaite par exemple une petite. Je dis les Aveyronnais parce que j'aime beaucoup les Aveyronnais. Hein, je prends cet exemple. Vous pouvez en choisir un autre. Mais si à supposer qu'on fasse une société. D'abord, pourquoi il y a un communautarisme aux États-Unis? Il y a un communautarisme aux États-Unis parce que c'est une société qui s'est composée d'immigrants. Bon, la France s'est pas composée d'immigrants. La première doctrine vis-à-vis des immigrés, c'est de force de les assimiler. Quand j'étais jeune, on n'imaginait pas que quelqu'un dont les parents soient italiens puisse apprendre même l'italien comme deuxième langue au lycée. Honnêtement, c'est absolument ridicule et mutilant pour quelqu'un de ne pas savoir parler la langue de ses grands-parents sous prétexte qu'il y a une frontière qui l'en sépare. Enfin, je pense que tu dois connaître des exemples près de toi comme ça. Bon, c'est une notion extrême. Bon. Passer à la notion inverse qui consiste à dire on va obliger dans les écoles corses, on va obliger à l'enseignement du corse dans une population qui je crois compte peut-être la moitié ou 40% de gens qui ne sont pas corses d'origine. Et donc on va leur apprendre une chose qui est certainement une langue très très belle. Bon, moi je ne connais qu'un dialecte qui est voisin et apparenté à cette langue, qui est le dialecte toscan. Le problème de ce dialecte toscan, c'est que pour une raison mystérieuse, il est parlé du nord au sud de la péninsule, c'est l'expression géographique qu'on appelle l'Italie. Tous les journaux, n'est-ce pas, de Il Giornale et de Milan, c'est tout à fait au nord de la péninsule, où les journaux de la Campanie sont imprimés dans ce dialecte toscan. Et j'ajoute même que le dialecte toscan permet de comprendre parfaitement la langue corse. Il me semblerait intelligent de permettre à des gens qui habitent la Corse d'apprendre peut-être le dialecte toscan s'ils le veulent. Parce que c'est une langue de culture. Certains l'appellent l'italien.
En dehors de la langue officielle du pays, je crois qu'après, il faut dire aux gens, vous apprenez ce que vous voulez.
Il ne peut pas y avoir, mais bien entendu. Ou alors, on renonce en effet au nom de France.
Ça, c'est pas du libéralisme, c'est la liberté.
C'est la liberté. Non, mais moi, je me bats pour la liberté. Je ne me bats pour aucun isme, Serge. Aucun isme. Je me bats pour la liberté, pour ma liberté, pour ta liberté, pour la liberté de cette
radio. Même pas pour le fascisme immense et rouge. Comme
ah non, mais attends, le fascisme immense et rouge, c'est joli. C'est une expression de Robert Brasillach qui en parle a posteriori, dans un très joli petit livre. Un très joli petit livre que je recommande à tous les jeunes gens, qui s'appelle « Lettre à un soldat de la classe 60 ».
Magnifique bouquin.
Et nous avons été quelques-uns à le lire en tant que « classe 60 », entre guillemets. Donc c'est en effet un très 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 joli livre, mais cette expression « le fascisme immense et rouge », elle vient à la fin d'une, n'est-ce pas, une phrase disant « oui, c'est ce que, oubliant les tares et les erreurs, etc., retiendra les cathédrales de lumière, les héros frappés au combat, José Antonio, le fascisme immense et rouge ». Honnêtement, si on regarde une figure sublime comme celle de José Antonio Primo de Rivera, une figure qu'il n'est pas question de renier. D'ailleurs, je vais rééditer le joli petit livre muni d'une préface immodeste que j'avais fait. Quand on regarde...
Réponse.
N'est-ce pas, réponse à l'Espagne. D'abord, fondamentalement, il s'agissait quand même de répondre au communisme, en cherchant un autre idéal. Bon, une chose profonde me sépare au fond de la philosophie de José Antonio, c'est qu'il est augustinien et pas moi. Je ne suis pas du tout augustinien, mais je crois que c'était un homme libre, justement. Et si on regarde bien son histoire véritable, c'est que c'était un homme libre, et il a cherché à ce que l'Espagne soit une grande et libre. Donc, ça ne me dérange pas que tu aies l'air de me... Dès qu'on est en face d'une petite lumière rouge, tu sais, c'est toi qui m'invites, donc j'exprime...
Non, non, mais moi,
ça ne me dérange pas que tu évoques le souvenir de
José Antonio. Non, non, c'est pas le... Je voulais surtout évoquer le souvenir de manière acquise. Voilà, je voulais faire ressortir pour montrer qu'il était quand même pas loin.
Le garçon dont tu parles, c'est le même... peut-être même encore plus insolent, tu vois. Et moi, quand j'avais 18 ans, je me permettais de trouver formidable José Antonio Primo de Rivera, que je considère encore comme une très très belle image, parce qu'il était une image de liberté et parce que vraiment, tous les petits rats 68ards, tous ces gens qui ne peuvent penser que collectivement, tous ces gens-là, c'est ça qui les faisait enrager. Et voilà. Maintenant,
oui, on peut revenir à ce que tu disais avant, quand on dit que la révolution c'est l'hystérisation ou l'exaltation hystérique de l'individu.
La révolution française de 1789. Oui, mais là, de l'individualisme, voilà, mais pas de l'individu noble. Voilà. Pas de l'individu.
Là, on a la démonstration du contraire.
Voilà. Pour moi, José Antonio probablement n'a pas tout le temps. Si on regarde bien, par exemple, il y a un très très intéressant livre de Stanley Payne, qui est probablement le livre le plus objectif, le plus sérieux sur la phalange. Bon, si on regarde son itinéraire, est-ce qu'on va dire à toutes les virgules de tout ce qu'il a dit, ce gars-là? Mais ce n'est même pas le respecter que de prendre les virgules. Par exemple, il disait la première chose que nous ferons quand nous serons au pouvoir, c'est que les banques seront nationalisées, je crois, dans l'heure qui suit. Tu vois, j'avais pas pensé à te répondre sur José Antonio, mais tu me titilles, tu me provoques. Et moi, c'est vroom vroom, donc je fais vroom vroom, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Les banques seront nationalisées dans l'heure qui suit. Mais c'est dérisoire aujourd'hui. On a bien vu en 1981 ce qui s'est passé quand on a nationalisé les banques. Ça n'a servi à rien, ça n'a fait que renforcer le pouvoir des banques sur les petites entreprises, sur les gens. Qui va emprunter chez les banques? Les gens qui ont besoin d'argent. Bon, donc le pouvoir des banques sur les pauvres a été accru par les nationalisations de 82.
Et on a eu le cas du Lyonnais.
Oui, on peut pas dire qu'il y a un seul pauvre se féliciter du Crédit Lyonnais.
Et pourtant, c'était les banques nationales.
Ça a toujours été depuis 45 une banque nationalisée. Donc la nationalisation des banques, tu vois, je reste fidèle à l'image de l'homme qui s'est dressé.
Oui, mais quand José Antonio disait ça, c'était il y a 65 ans et 60 ans. La situation a quand même pas mal évolué.
Bon, je vais te dire un truc. Il y a un boulevard Arago à Paris, personne ne le renie, c'est un homme de gauche. Bon, si on regardait le discours d'Arago sur l'effet de la vitesse des chemins de fer sur le moral des gens qui montraient dans les chemins de fer, bon, il n'y aurait plus d'école polytechnique, il n'y aurait plus de gauche, il n'y aurait plus de boulevard Arago. Bon, Arago était probablement un très grand bonhomme, mais il a dit d'énormes bêtises. José Antonio n'était pas qu'il a dit des bêtises, il a dit un peu ce que tout le monde pensait. Et puis surtout en face du phénomène bolcheviste. Il s'agissait de montrer que les gens qui se dressaient, et je rappelle que quand même, il est mort d'une chose, José Antonio, c'est qu'en fait, il n'a pas exercé de violence. Moi, monsieur Sormand, n'est-ce pas, a fait contre moi une petite saleté parce que, en effet, je me permets de dire, voilà un beau martyr de la droite, José Antonio, une image sans tache. C'est vrai qu'il a dit, quand la patrie et la justice sont en jeu, il n'y a de dialectique possible que celle des poings et des pistolets. Seulement, ça c'est une phrase. Dans les faits, il n'y a jamais eu de pistolet dans la dialectique de José Antonio. D'ailleurs, les gens qui le critiquaient, la vraie droite dure espagnole, a parlé du franciscanisme de la phalange espagnole. C'est-à-dire, c'est un mouvement non violent qui a énormément de... Ensuite, la guerre civile, c'est pas les phalangistes qui l'ont déclenché. Ils l'ont par contre subi, et ils se sont battus courageusement. C'est tout à fait clair. Mais lui, on ne peut pas dire que c'est un homme qui est vraiment préparé un coup d'État. On ne peut pas dire que c'est un homme qui ait exercé de la violence. C'est pas quelqu'un qui a mis des revolvers dans la main de gamins. Pas du tout. Il n'a fait rien de tout ça. Et du coup, d'ailleurs, les communistes sont venus, l'ont pris comme ça, l'ont fait condamner pour un bidule comme ça, et l'ont fusillé, alors qu'il n'est responsable de rien quand on le fusille. C'est donc un martyr. Un martyr au sens chrétien du terme, mais pas au sens de nos amis islamistes, puisque vous savez qu'un martyr, pour c'est lui qui tue, pour un chrétien, c'est celui qui est... C'est l'agneau immolé. Donc, l'image de José Antonio, vous voyez, monsieur Sormand, j'ai à nouveau le sentiment que je vous méprise autant d'avoir monté contre moi cette petite fabrication pour des gens qui n'ont rien lu, et voilà. Donc, je pense qu'on est logique avec soi-même. Quand c'est embattu contre le communisme, dans un certain contexte, on continue à se battre contre les idées collectivistes, les idées qui abaissent l'intelligence française, qui abaissent les élites en France, et aujourd'hui, voilà.
Oui, mais ton combat, c'est
combat d'idées.
J'entends bien. Le combat d'idées, il est dirigé, il est plus dirigé contre une certaine forme de du génie entre guillemets, bien entendu, du génie français.
Bah oui, je suis en France, donc je me bats contre les idées fausses qui font tant de mal à notre pays. Mais attends, mon combat, c'est un combat complètement solitaire. Je m'exprime, comme tu sais, par des écrits, par des choses. Je n'appartiens à aucun parti. J'ai quelques copains qui n'ont pas tous les mêmes opinions, d'ailleurs, surtout. Donc, quand tu me dis mon combat, il n'y a aucun bulletin d'adhésion au bas de ce que je suis en train de te raconter. Je pense que le combat, on peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. Donc, le combat des idées de droite, pour moi, dont les petites émissions à Radio Courtoisie, là je vais encore dire quelque chose de qui est peut-être révélé, que quand j'invite quelqu'un, c'est parce que j'ai envie à travers lui de dire quelque chose que je partage. Est-ce que tu partages tout ce que tu entends dire par tes invités? Non. Mais enfin, quand même, si tu les invites, si tu leur donnes la parole, c'est que tu trouves que ça mérite d'être entendu. Donc c'est une forme de combat. Je crois que le combat de la droite française, c'est contre les idées fausses qui sévissent en France. Est-ce qu'on doit se demander, par exemple, si les idées de la Révolution française sont des idées allemandes qui viennent de Monsieur Weishaupt, ou des idées picardes, il était picard Robespierre, j'en sais rien, ce sont des idées fausses et elles ont cours en France. Une certaine pensée anglaise, allemande, on va trouver des sociétés secrètes italiennes, tout ce que tu voudras, y joue un rôle, mais c'est les idées fausses qui tuent ce pays. Et qui aujourd'hui, et c'est ça le problème, qui aujourd'hui ont pris un vernis de tricolore bidon. Je veux dire par là que quand le souverainisme d'Alexandre Chabanis, puisqu'on vient de l'entendre, ou de Madame Maigret, ou de Le Pen, ou de Villiers, etc., bon, c'est une chose, mais le souverainisme de Marc Blondel, ça devrait quand même, on devrait quand même se poser des questions. Hein, une opinion signée Blondel peut difficilement être partagée.
Hein? Mais quand là on parlait du souverainisme, tu citais.
Non, mais je cite ces gens, je n'ai rien contre eux. C'est vrai que je ne dis pas exactement la même chose.
Est-ce que par exemple, parce que je remarque une chose, c'est que quand on parle de l'immigration, par exemple, tu as une espèce de retrait. Je sais pas, on a l'impression que c'est un sujet qui te paraît dépassé, pas intéressant, pas d'actualité, plus d'actualité. C'est une fausse impression ou c'est une réalité?
C'est peut-être une réalité en ce... non mais alors vraiment tu cherches à me définir comme un ennemi de la droite nationale?
Non, c'est pas ça. J'essaie de comprendre comment ça s'ajuste.
C'est marrant cet entretien, je n'y étais pas préparé et tu es vraiment un provocateur fini. Mais je salue le provocateur. Je vais parler librement. L'immigration, à mon avis, le problème est derrière nous, ils sont passés. Si on est contre l'immigration, probablement on va pouvoir visser un certain robinet, machin, etc. Est-ce que c'est le fond du problème? Le problème, c'est qu'il y a dans la société française des gens qui vivent de l'assistanat. Et cet assistanat a fait venir une immigration qui n'était pas voulue par la majorité des Français. On se trompe aussi quand on dit oui, les usines Peugeot, j'ai entendu cette chose-là, j'ai peut-être même cru que c'était vrai. Bon, peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, on est allé chercher des travailleurs immigrés, de même qu'aujourd'hui, on a besoin d'informaticiens qui viennent de l'étranger. C'est pas le problème de l'immigration, tu me l'accorderas. Donc aujourd'hui, il y a des populations dont nous développons la non-assimilation, l'inassimilabilité par l'assistanat. Hein, le phénomène là, on peut faire le parallèle avec des études très sérieuses sur les populations noires américaines qui sont pas tout à fait les mêmes, d'abord parce que ces populations sont chrétiennes, sont venues il y a très longtemps. La comparaison dans les sciences humaines, elle est jamais absolue. Mais en revanche, on sait que les programmes d'aide à la pauvreté de Kennedy, ils ont 40 ans d'avance sur ceux de, ou 30 ans d'avance sur ceux de Mitterrand. Et on le voit on voit ceux de Mitterrand se développer en parallèle. Donc on peut dire, profitons de l'expérience des États-Unis.
Et on voit d'ailleurs que ces programmes d'aide à la pauvreté sont vraiment des programmes d'aide à la pauvreté, SOS Racisme est réellement
contre les pauvres,
SOS Racisme, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui entretient la pauvreté.
Je vais jusqu'au bout. Si on observe les populations minoritaires des États-Unis, alors, employant des langages totalement politiquement corrects, il y a deux sortes. Il y a une population noire américaine totalement conservatrice, totalement intégrée, qui fonctionne sur le modèle de la famille que nous connaissons, c'est-à-dire un père, une mère et quelques enfants, et des gens qui travaillent, et puis une autre population qui vit de l'aide de la pauvreté, ou alors il y a une mère célibataire avec 5 enfants de 6 pères différents, vivant à partir de l'âge de 16 ans sans aller... Bon, alors, c'est ces choses-là, après une période, grosso modo, qui va de Kennedy-Johnson à la réforme des années 95 à 98, réforme à laquelle Monsieur Lieberman a donné son soutien, Lieberman, hein, l'homme qui était co-candidat avec...
Le vice-président.
Ça parce que j'ai traduit son article, qui était très intéressant. Eh bien, on peut dire, il faut arrêter, en effet, de faire un système d'assistanat qui crée une situation dramatique. Deuxièmement, donc, ce que je veux dire, c'est que on est en face d'un premier problème aujourd'hui, qui est le problème, que faire des populations qui sont ici? Bon, deuxièmement, autre problème, qui est un problème de sécurité. Bon, ça c'est vrai que...
De criminalité.
Oui, en fait, de réponse. Alors on appelle ça des réponses sécuritaires. Oui, de donner des moyens à la police, de donner des moyens aux polices municipales, de ne pas saboter par une action judiciaire les moyens de la police. J'ai reçu un homme qui est la moitié de l'auteur, c'est Monsieur Xavier Roffert, n'est-ce pas, qui a fait un petit livre que je conseille à tout le monde, hein, Violence et insécurité urbaine, qu'il a co-écrit, lui, c'est un homme de droite, dénoncé comme peut-être même d'extrême droite, qu'on dit.
Voire même,
moi ça je suis pas allé y regarder. Mais il est dénoncé par le réseau Voltaire comme un homme de droite et avec qui il est associé avec un des dirigeants du Grand Orient de France. Donc c'est ce qu'on peut appeler un libre objectif.
Et il est d'ailleurs dénoncé par la droite ultra comme...
Ah oui, mais alors ce que je veux dire, c'est que Boer, qui a écrit avec lui, est dénoncé par la gauche ultra comme étant la caution comme... républicaine d'un affreux fasciste. Donc tout ça n'a aucun sens. Et le plus extraordinaire, c'est que qui est-ce qui actuellement relance les polices municipales? C'est un maire communiste. Qui est-ce qui a osé dire le plus clairement qu'il fallait s'inspirer des méthodes de Giuliani à New York? C'est monsieur Julien Drey. Donc ce n'est pas un problème strictement politique. Enfin, à mon avis, Julien Drey et ses copains ne rétabliront pas la sécurité. Mais c'est pas, il n'est pas totalement gagné d'avance que c'est des hommes de droite qui vont, en toutes circonstances. D'ailleurs, pour couper des têtes, je fais beaucoup plus confiance à la gauche, puisque pour couper les têtes de la droite, elle s'y est toujours employée. Donc, voilà, je vois au message que te tend Victoria, que tu m'as tendu un piège.
Non, pas du tout.
Ça n'a aucune importance.
Non, mais je vais d'ailleurs demander...
Je suis très content de te parler librement.
Ben oui, mais c'est tellement plus simple comme ça. Je vais d'ailleurs demander à Victoria de poser les questions, de transmettre les messages des auditeurs.
Que pense M. Maliarakis de la décision par le Sénat de condamner le génocide arménien?
Ce que pense M. Maliarakis de la condamnation du génocide arménien. M. Maliarakis pense que le crime qui a été commis contre les Arméniens est quelque chose d'absolument abominable. C'est tout à fait clair. Le mot génocide, on le met un petit peu à toutes les sauces, et alors on mange la sauce, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je constate que ça déplaît beaucoup vers le gouvernement turc. Alors, M. Maliarakis...
Ça ne peut pas être mauvais.
C'est pas sûr. Est-ce que ça résout le problème de nos amis arméniens auxquels j'adresse ma plus grande sympathie? Ce que je conteste, c'est la stratégie au sein de la communauté arménienne d'obtenir le statut qu'ont déjà plus ou moins les tziganes. N'est-ce pas? Si j'étais arménien, j'ai beaucoup de... Vraiment, la plus grande sympathie pour les arméniens, je n'aurais pas cherché spécialement cette chose-là. Bon, d'un autre côté, il faut quand même se rendre compte qu'il y a d'autres enjeux. Est-ce que la Turquie est ou est pas un pays européen? Bon, à mon avis, elle n'est pas un pays européen. Qu'elle reconnaisse le génocide des Arméniens, ce qu'on est en train de lui demander. Est-ce que c'est l'objet d'une loi française ou pas? Ça n'en fera pas un pays européen.
Le sentiment que j'ai, c'est tout simplement que le Sénat... dit, en tout cas, nous, Français, les Turcs font ce qu'ils voulons, mais nous, on considère que c'est effectivement un génocide.
Il faut s'entendre sur le mot génocide. Oui, c'est un ensemble de crimes abominables.
C'est au moins un génocide que d'autres génocides.
Vu comme ça, oui. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que le mot génocide s'applique à un cas et un seul?
Si.
Ça, c'est une question sémantique.
Ça, c'est la première question.
Je n'ai pas la réponse.
La première question, c'est pas ça. Je crois que la première question, c'est est-ce que pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait suppression du gène. Ou de la race, qui n'existe pas, comme chacun sait.
Quelle différence entre génocide et massacre systématique d'une population? Bon, ensuite...
Parce que je pense que ça veut dire un génocide, c'est un massacre systématique qui ne peut plus s'appliquer parce qu'il n'y a plus de population. Une fois que c'est terminé, le génocide est accompli.
Si tu veux, mais je ne suis pas lexicographe.
En gros, c'est comme ça que je comprends les choses. Donc, à ce moment-là, il est évident que dès le début, l'utilisation du mot génocide a été une utilisation légèrement obviée.
Alors, par exemple, posons-nous le problème. Est-ce que la Turquie actuelle est héritière en cela de l'opprobre moral attaché à l'Empire ottoman?
Première question. Exactement de la même manière que la France ou l'Allemagne sont héritières ou pas héritières de l'opprobre qui est attaché à ce qui a été fait dans d'autres circonstances sur d'autres personnes victimes de génocide.
Alors, la République turque ne se considère pas en toutes circonstances comme héritière de l'Empire ottoman. Donc, on joue sur les mots avec tout ça.
Il faut qu'on fasse élire.
Qui est-ce qu'on va poursuivre?
Un président de la République comme Chirac.
Alors, il est vrai, n'est-ce pas? Je me souviens de Gabriel Mendel. Enfin, bon, sur le fond, évidemment, si j'étais sénateur de la République ou député et qu'on me demande vous votez pour ou contre la reconnaissance de ce génocide, oui, probablement j'aurais voté. Voilà, point.
Trois messages à la file. Un économiste, c'est quelqu'un qui fait des économies. Ouais. L'immigration, c'est 400 milliards de gaspillage par an.
Si on veut, oui.
Maliarakis n'en tient pas compte, donc ce n'est pas un économiste.
Alors,
le deuxième sur le même sujet. Monsieur Maliarakis fait des confusions en matière économique.
Forcément, oui.
Comme Lénine, il faut imposer le génie français de la liberté d'entreprise au mercantilisme de la finance qui s'appelle l'économie de marché. L'économie d'entreprise s'impose à l'économie de marché. Voilà la véritable doctrine politique.
Oui, je suis pas très éloigné de... Enfin, j'emploierai pas ces mots. Mais oui, on n'est pas en désaccord, cher monsieur. Là. Mais sauf que le mercantilisme, l'économie... Enfin, tout ça, c'est des mots, des ismes. Il faudrait s'entendre sur les définitions. On n'est pas... Ce que je défends, c'est la libre entreprise et la libre échange aussi. Oui.
Alors... Je suis les écrits et les émissions de Monsieur Jean-Gilles Maliarakis depuis une dizaine d'années, oui. Depuis Troisième Voie. Et je me demande dans quelle mesure les penseurs libéraux tels que François Guillaumat, Florin Haftalion, Jacques Garello, etc., n'ont pas fortement contribué à l'évolution de sa pensée et de son point de vue, ce dont je me féliciterais.
Mais c'est à peu près exact, oui. Je ne me sens pas du tout en contradiction. Bon, ben voilà, Serge m'avait pas prévenu que je serais en face d'un tel questionnaire. Oui, monsieur, je ne...
Mais soyez pas
oui,
comme
monsieur,
ça, il
la
est gentil
fréquentation...
cet auditeur.
Tout à fait, je me reconnais. Bon, Guillaumat, quand il nous parle pas du problème, quand il ne parle pas du quotient intellectuel de Maurice Allais, qu'il sous-estime un petit peu, enfin, à part certains excès... Guillaumat reste un génie méconnu et mal utilisé. Garello et Florin Haftalion, oui, voilà des gens dont je partage énormément de choses. Cela étant, ils partagent pas forcément mes présupposés philosophiques ou mon parcours.
Mais il y a quand même une chose qu'il faudrait dire aussi, c'est que ça, c'est un peu, je prêche un peu aussi pour ma paroisse, c'est que c'est pas parce qu'on reçoit quelqu'un au micro qu'on est d'accord avec lui.
Non.
C'est pas parce qu'on reçoit.
On l'a choisi quand même, Serge.
Oui, mais
là,
pas forcément parce qu'on est d'accord.
Je sais pas pourquoi. Mais tu as eu raison. C'est
parce que je pense que.
Mais je ne savais pas qu'on parlerait de ça.
Mais moi, je savais pas de quoi on allait parler.
Eh ben voilà, on en parle.
L'improvisation brillante.
On parle
je
donc
sais
du parcours d'un garçon
voilà.
Qui a toujours combattu le communisme. Voilà. Hein, voilà. C'est... Donc tu peux dire ça.
Ça me paraît un excellent résumé. Et alors, on va en venir maintenant pour peu d'instants à l'autre raison pour laquelle je t'ai demandé de venir, parce que c'est quand même, il y a une raison solennelle en quelque sorte.
Oui, je ne sais pas.
C'est que tu vas devenir directeur de journal.
Ah, je suis déjà directeur d'une publication
sur le net.
Le réseau mondial que certains appellent Internet et que nous pourrions appeler la toile.
La toile, d'accord.
La toile.
Mais donc tu vas revenir au papier quand même.
Alors je vais revenir très bientôt au papier, c'est-à-dire que l'ensemble de ces petites productions, l'ensemble de mes bulletins vocaux que tu connais, qui sont parfois improvisés. Par exemple, j'ai été obligé de faire celui de ce matin sur la situation. J'ai passé la nuit, c'est pour ça que je suis un petit peu abruti. J'ai passé la nuit j'ai suivi. En sortant du dîner de Radio Courtoisie, j'ai commencé à regarder sur la toile, n'est-ce pas, où en était l'histoire des élections américaines. J'ai regardé les étranges lucarnes, et puis du coup, j'ai pratiquement extrêmement peu dormi et j'ai fait mon bulletin à 8h33 au moment où la Floride est passée sur l'ordinateur du New York Times comme état gagné par George W.
comme on dit maintenant obligatoirement.
George Walter, on peut l'appeler comme ça, il s'appelle George Walter Bush, je ne vais pas l'appeler Bush, n'est-ce pas, mais donc George Bush, a été officiellement gagnant. À ce moment-là, j'ai dit, bah, si c'est comme ça, parce qu'il y avait encore un doute. Et je m'en félicite. Alors, cet article, il est fait, il aura une substance dans un petit mensuel qui va commencer à être publié, imprimé sur du papier. Du papier. Voilà. Et qui s'appellera, comme le bulletin sur la toile, qui s'appellera l'insolence. Voilà. Alors ce petit bulletin, voilà, c'est une révélation.
Alors il y aura donc dedans, d'une part,
il y aura pas mal de choses. Il y aura des
ceux qui ont vocation à durer.
Je vais tout te dire, oui. Tu sais très bien, quand on écrit 3 articles par jour, il y en a beaucoup de jetables à la fin du mois.
Même des fois avant la fin du mois.
Exactement. Donc il y a des articles dont je me sers, je fais un petit peu évoluer. J'ai les réactions de mes auditeurs aussi, n'est-ce pas, qui me disent je m'en sers beaucoup de ces choses-là. Donc il y aura ça, puis il y aura des papiers d'autres qui justement exprimeront ce point de vue complètement libre. J'ai repris un petit bulletin qui s'appelle. J'ai repris l'habitude très agréable de faire, un peu astreignante quand même, de faire, même quand je suis à 3000 km, n'est-ce pas, qui s'appelle En toute liberté le matin, qui est sur le téléphone. Et puis, En toute liberté, maintenant je vais faire tout ça, c'est de défendre un peu toutes les idées que tu m'as incriminé, dont tu m'as incriminé l'expression, ou souligné l'évolution, etc. Et voilà, parce que je pense que la cause de la patrie et de la liberté, c'est la même. Voilà ce que je voudrais dire en peu de mots. Hein?
Ça me paraît un résumé.
Identité et liberté. L'identité française, c'est la liberté au sens chrétien du terme, c'est pas la liberté au sens des révolutionnaires de 89. Mais enfin, je me comprends, et j'espère que les gens qui m'écoutent me comprennent. Et alors, sur l'immigration, qui est la pierre d'achoppement de la liberté, de l'identité, on se rend compte que c'est les solutions de liberté et de responsabilité qui permettront à la France de se sortir du... Alors, est-ce qu'il faut employer l'expression trop noire ? Je ne sais pas quelle expression, du tunnel, voilà, dans lequel nous avons l'impression d'être engouffrés, c'est-à-dire avec des gens qui sont malheureux chez nous, parce qu'on ne leur apprend pas un métier, par exemple. On leur apprend pas à exercer leur liberté. En définitive, on a reconstitué l'empire colonial dans les limites de la métropole.
C'est pas une bonne idée.
Nous avons milité quand on était jeunes. Là aussi, on peut me reprocher d'avoir été Algérie française, mais aujourd'hui, Serge, je ne sais pas si les grands médias français ont insisté là-dessus. Se rend-on compte qu'en Algérie, actuellement, depuis quelques jours, il y a tout un émoi parce que un bouteillon, un faux bruit.
Oui, j'en ai fait un article dans
Tu en as fait un, voilà. Donc
il va au bout.
Voilà. Bon, c'est d'une chose extraordinaire. Les Algériens disent c'est formidable. Ceux d'entre nous qui sont nés avant 1962 vont pouvoir devenir français. Alors, autrement dit, on va refaire de tous les gens qui étaient à Ouagadougou, etc. Ils vont être sujets français et ils ont envie de l'être. Manifestement, ceux qui ne viennent pas, c'est une erreur ou un oubli. Ils ont envie de l'être, mais au lieu d'être sujets français dans leur beau pays, avec leur beau baobab, avec leur beau rocher, etc., leur magnifique paysage d'Algérie, ils vont l'être en Seine-Saint-Denis.
C'est moins intéressant.
Mais il serait beaucoup plus intéressant de refaire une fraternité.
Si tu me permets une citation.
Oui, je t'en prie.
Tu te souviens certainement de ce que disait Le Pen il y a 10 ou 15 ans quand il disait.
Je me souviens pas de tout ce qu'il a dit.
Non, pas tout, mais ça, c'était quand,
l'homme de l'histoire.
C'était quand même magnifique quand il avait dit : je ne suis pas de ceux qui croient que le comble du bonheur pour un Camerounais est de balayer la neige dans les rues de Dunkerque.
Oui, voilà. Mais alors, il faut être honnête, je ne le reproche pas, je ne cherche pas à critiquer qui que ce soit. Allons jusqu'au bout. Essayons de contribuer au bonheur des Camerounais dont nous sommes de toute façon tributaires. Donc je préfère qu'ils soient en effet heureux, c'est-à-dire qu'ils puissent... Eh bien, on reconstituera une chose qui s'appellera peut-être pas l'Union française, mais ça serait peut-être beaucoup mieux, tout ça. Et alors, si on réfléchit, le libre-échange, c'est un moyen de faire ça. Parce que ne disons pas que la production de Ouagadougou va submerger l'industrie française. Arrêtons de ce délire. Donc le libre-échange, c'est une solution pour ces pays. au fond, c'est à ça qu'ils aspirent. On a créé des zones monétaires démentielles. Bon, la fin de la cistana aussi. Donc, les idées libérales qui n'ont de sens que si elles comprennent une part de responsabilité. C'est aussi un dernier point que je voudrais dire. Moi, je veux bien l'étiquette libérale. Les étiquettes ne m'intéressent pas. On la revendique pas, en tout cas. Je revendique l'étiquette d'ultra, d'accord. Quoi qu'il y ait derrière l'ultra, c'est probablement sympathique. Bon, donc, soyons radicalement dans la vérité, n'est-ce pas? Hier, on a eu, t'as pas eu ça, parce que t'étais pas au dîner de Radio Courtoisie, tu vois. Tu n'as pas eu le dictionnaire des synonymes. Tu regardes les mots français, ça vient de franc, je crois. Tous les synonymes de franc sont sympas. Et le dernier, c'est vrai. Ouais. Disons la vérité. La vérité,
cela c'est dit, que... Je dirais un mot quand même pour terminer. C'est que un dictionnaire des synonymes en français me paraît une aberration parce que la langue française ne connaît pas de synonymes.
Ah bon?
Non. C'est pas vraiment des synonymes.
Merci Jean-Gilles d'être
on est, là, c'est mais
non, tu non, non, on arrête, on arrête.
Quel effet ça fait d'être invité au lieu
mes
d'être
annonces, invité. Marrant, mes annonces. Pouvez-vous donc le dîner d'hier, pouvez-vous en dire quelques mots?
Ben, Jean-Gilles en a parlé, moi j'y étais pas.
Non, justement, on souligne que vous n'y étiez pas. Et on vous demande qui a eu le prix d'Audet. C'est Madame Jacqueline de Romilly, je sais d'où. Pour quelles raisons, plusieurs nombreux messages, pour quelles raisons l'émission de Bernard Lugand n'a pas eu lieu aujourd'hui? Est-elle supprimée? Une réponse précise
alors,
nous obligera.
Je vais donner une réponse précise. Je n'ai pas supprimé l'émission de Bernard Lugand pour l'excellente raison qu'il n'y avait pas d'émission de Bernard Lugand. Il y avait l'émission de Serge de Beketch, dans laquelle, de temps en temps, Bernard Lugand était invité. Donc il n'y a pas de suppression de l'émission de Bernard Lugand. Il n'y a qu'une personne qui peut supprimer des émissions sur cette radio, c'est Jean Ferré. Et il n'y a qu'une personne qui peut attribuer des émissions, et c'est Jean Ferré. Et si Jean Ferré, il peut le faire. Et si Jean Ferré veut donner une émission à Bernard Lugand, j'en serais extrêmement content, parce que je trouve effectivement l'émission de Bernard Lugand intéressante. Exactement. Moi aussi, d'ailleurs. Le fait est que j'ai décidé de changer le format de mon émission, du mercredi, c'est-à-dire de donner la parole à beaucoup plus de monde, et notamment à beaucoup plus de journalistes de notre famille, et par conséquent, ça supposait que je modifie le programme de ces émissions. Donc, j'ai proposé à Bernard Lugand de venir comme invité, non plus à date fixe, mais à une date dont on conviendrait ensemble. Il se trouve que pour l'instant, ça n'a pas été agréé. En ce qui concerne son absence aujourd'hui, non, je vais aller au bout de l'explication. Il était convenu que Bernard Lugand faisait la première émission du mois, ça s'est supprimé, et il n'a pas fait la première émission du mois, et j'ai été prévenu beaucoup trop tard, beaucoup, beaucoup trop tard, qu'il désirait faire l'émission du 8. Il se trouve que moi, entre-temps, j'avais pris mes dispositions pour avoir mes invités, et notamment le clan de la presse du 8. Et je précise que cette émission est le libre journal de Serge de Beketch, dans lequel il y a des invités, qui s'appellent Daniel Amiche, Bernard Lugand, etc. Voilà. Donc il n'y a pas de suppression, il y a tout simplement une reprise par mois de mon émission.
Je vous fais mes petites annonces. Le Cercle franco-hispanique vous informe qu'une messe à la mémoire de Franco et de José Antonio sera célébrée en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay le samedi 11 novembre à 11h15. Le 11 novembre aussi, à Argenteuil, colloque avec la participation de spécialistes américains, anglais, français, allemands, français sur le thème 12 siècles de présence de la Sainte Tunique en France. Le 12 novembre, pour fêter les 30 ans de la Fraternité Saint-Pilice, messe pontificale à 10h30 en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, montage audiovisuel Rome 2000, entretien avec Monseigneur Fellet, la force de la tradition, Palais de la Mutualité, donc à 14h15, à 17h les Vêpres à Saint-Nicolas et à 18h Vers de l'Amitié sur le parvis de l'église. Le mardi 14 novembre à 18h, dans le cadre des mardis du MCC, conférence débat avec François Haut et Xavier Rofer sur cartographie criminelle. Avec Victor Goldsmith, professeur de géographie criminelle au Hunter College de l'Université de New York. Salle des conférences, salle des conseils, Elle Soufflot à l'Université. Conférence du Cercle Sol Invictus, vendredi 17 novembre à 20h, du paganisme au christianisme, un itinéraire spirituel par Christophe Levallois, conférence animée par Arnaud Guyot-Janin.
prix d'entrée 40 francs, adresse SEIN, salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés.
Ah, maintenant c'est mon tour.
Congrès de l'association Notre-Dame de Chrétienté, les samedis 25 et dimanche 26 sur le thème pour que rayonne la chrétienté au palais des congrès de Versailles.
Alors mon tour maintenant. Le téléphone. Le journal, enfin l'édito téléphoné, en toute liberté, de manière acquise, le téléphone c'est 08 36 68 09 56. C'est deux messages personnels à envoyer. Il y a un message qui est très important, c'est que, c'est très personnel mais très important. Caramel, notre chien qu'on avait confié à Maud Marin, est mort. Maud Marin est désespérée, elle cherche un chien, un bon toutou. Si vous avez un bon toutou qui peut assurer la protection d'une petite maison, téléphonez-nous parce que c'est vraiment très 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 urgent. Ça a l'air dérisoire, mais c'est quelqu'un qui est totalement désespéré par la mort de ce brave chien. Je vous remercie de nous avoir écoutés si longuement. Je vous souhaite une bonne semaine. À mercredi prochain, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 8 novembre 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 9 novembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.